Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à la Cimatech pour ce nouveau rendez-vous inscrit dans le cadre de Cinédition et d'avoir sacrifié un peu votre grasse matinée pour une question qui passionne, je crois, et qui on a intitulé ainsi « La critique de cinéma et le défi Internet de la revue au blog ». Alors juste une petite introduction pour commencer, on peut dire que de manière assez progressive, depuis plusieurs années, le début des années 2000 environ, eh bien, la cinéphilie, le commentaire critique sur le cinéma se développe, s'étoffe sur Internet. Ça passe par des discussions brutes sur des forums, l'actualité des sorties en salle ou en DVD, le cinéma bis, le cinéma asiatique, d'autres fractions de cinéphilie, mais aussi par des magazines de cinéma, des revues de cinéma en ligne ou des extensions de magazines ou de revues de cinéma, avec des contenus parfois originaux. Et donc tous ces magazines avec des lignes éditoriales très différentes. Mais qui ont entretenu souvent en fait une véritable réflexion sur le cinéma. Donc j'en cite quelques-unes hein, concernant, enfin évidemment il y a Cadrage, Alexandre Tilski est là, je vais vous le présenter dans quelques instants. Il y a également Criticat, Écran Large, Objectif Cinéma, DVD Classique, DVD Rama, Cinémathèque, TAKE.com aussi. J'ai vu que c'était voilà une nouvelle revue en ligne. Et puis il y a également donc après les forums, les magazines de cinéma, les revues en ligne, les blogs. Des blogs inscrits dans un contexte connu ou reconnu, que ce soit le blog de Luc sur le site d'Arte, Luc Lagier, Frédéric Bas à mes côtés pour Mediapart, évidemment le blog de Serge Toubiana sur le site de la Cinémathèque française, et puis des blogs qui sortent aussi un petit peu de nulle part, que ce soit La Poursuite du Vent, 365 jours ouvrables, Joachim Levastier est ici, et je vais vous le présenter, La Lanterne également, le fameux blog de Zwilov que certains d'entre vous connaissent, Matière Focale, enfin voilà, il y a beaucoup de sites et je ne vais pas tous les citer, il y en a énormément. Donc des blogs, je le disais, sortis de nulle part, mais qui souvent révèlent de vrais talents d'écriture et de vraies personnalités critiques. Alors, forum, revue en ligne, blog, nouveau terrain d'écriture, nouvelle façon de parler du cinéma, redéfinition du champ de la critique, redéfinition de ce que c'est qu'un critique de cinéma, baisse d'intérêt pour les revues papier, qui voient leur lectorat au mieux baisser, au pire s'effondrer totalement, baisse de la place consacrée au cinéma dans les quotidiens et les news magazines, et plus précisément baisse de la place du commentaire critique. On va parler de tout ça au cours de cette discussion, des changements qu'engendre le développement du commentaire critique sur le cinéma, changements excitants, favorables, ou au contraire inquiétants, certains le pensent. Je rappellerai un colloque qui s'est déroulé en octobre 2007 au cours du Festival Cinémed à Montpellier où Internet passait un peu pour le grand méchant loup. Et puis je citerai aussi Pierre Léon qui, dans le dernier Trafic, et il n'est peut-être pas le seul, à parler un peu de blogorée infernale où risque de se noyer le discours sur le cinéma. Donc je vais tout de suite vous présenter en fait nos intervenants. Je vais vous présenter pas dans ce sens-là, voilà, Ntebin, qui écrit à Positif depuis un certain nombre d'années.
Sous le nom de Yann Tobin.
Voilà. Et donc, également distributeur, avec les grands films classiques. Oui, je dis pas une bêtise.
Oui, en partie.
En partie, ouais. D'accord. Également auteur de plusieurs livres et également auteur de plusieurs documentaires. Voilà. Ensuite, Luc Lagier. Alors Luc Lagier, qui a de nombreuses casquettes, critique, auteur de livres sur John Carpenter, De Palma, tu as été rédacteur en chef du magazine Court Circuit sur Arte, tu as également réalisé pas mal de documentaires, pas mal de bonus pour des DVD, et tu tiens un blog en images sur le site d'Arte, on va en reparler dans quelques instants. Ensuite Frédéric Bas, à mes côtés. Alors Frédéric, tu es enseignant. Tu as réalisé des documentaires, tu écris pour. Tu écris toujours pour Chronica. Voilà. Et tu tiens depuis peu un blog. Enfin, c'est le début, donc pas forcément fréquemment. Enfin, il y a déjà eu 3 ou 4 textes voilà, sur Mediapart. Voilà. Ensuite, Julien Gester. Alors, Julien, toi, tu es critique aux Inrecuptibles et tu es responsable éditorial de la partie cinéma du magazine, du site. Du magazine, voilà, je vais m'y retrouver. Voilà, et puis tu as fait aussi pas mal de choses, notamment autour du cinéma japonais, programmateur de films, de manifestations. Je continue avec Joachim Lepastier, qui tient un blog sur Internet qui s'appelle 365 jours ouvrables, voilà, un des blogs les plus intéressants en ce moment sur Internet. Et puis je termine par Alexandre Tilski, Alexandre, tu es responsable du site, tu as créé, tu es responsable du site cadrage.net. Non, c'est pas vrai.
J'ai pas fondé.
Tu l'as pas créé ? Ah mais.
Micro.
Ouais. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Tu es enseignant aussi à l'Université de Toulouse et tu édites à peu près une dizaine de sites éducatifs, ou produits pédagogiques sur des cinéastes ou thématiques. On va en parler aussi dans quelques instants. Et tu es aussi l'auteur de trois livres consacrés à Polanski. Voilà, je voulais simplement le signaler. Donc en fait, j'aimerais d'ailleurs pour commencer que chacun détaille un peu son activité par rapport à Internet. Donc ouais, on va commencer par toi, Alexandre, puisque tu avais la parole. Donc, tu peux prendre ton micro et nous dire déjà que tu n'es pas le fondateur de Cadrage.
Non, c'est vrai, j'ai pas fondé Cadrage. Ça a été créé en 98 au Québec, à Montréal. Ce sont des étudiants de cinéma de Montréal en fait, qui ont lancé Cadrage en 98. Et c'est vrai que on aura peut-être l'occasion de parler de l'évolution, l'histoire des sites de cinéma. Mais pas mal de choses ont été créées au départ au Québec. Et après, sont devenus des sites français, etc. Et donc, j'ai commencé sur Internet en 96. Sur l'obligation parentale de me mettre Internet, que j'avais absolument pas envie du tout. J'étais un peu réfractaire à tout ce qui était ordinateur, Internet, etc. Mais avec un père ingénieur, c'est pas évident de dire non. Et au bout d'un mois, j'étais passionné, absolument passionné par Internet. Et il a vraiment bien fait. Parce que en 96, il y avait pas mal de... Bon, il y avait pas mal de forums, en fait, notamment les forums Usenet, qui sont un peu des forums voilà, dédiés à plein de sujets différents et qui permettaient en fait, des échanges tout à fait intéressants. D'ailleurs, il y a un site en France qui s'appelle le site Lumière, qui est basé en fait, sur des collaborations de cinéphiles sur des forums, notamment sur le forum, si je me souviens bien, c'était France Rec Cinéma Discussion, qui est devenu ensuite un site, je crois, en 98. Donc, c'est vrai que ces forums, au départ, au milieu des années 90, ont permis la création de certains sites de cinéma à cette époque-là. Donc, c'est un peu dans cette mouvance-là que j'ai découvert Internet, en fait.
Et juste en deux mots, tu peux dire peut-être que ce qu'est Cadrage aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne bien.
Alors, cadrage.net, c'est au départ donc un site de cinéma un petit peu universitaire. C'est vrai que c'est un peu la spécificité en fait, de ce site. Par rapport à d'autres, il y a à la fois des critiques, des analyses, des dossiers, etc. Et aujourd'hui, il y a un comité de lecture universitaire depuis 2006, ce qui permet en fait au texte, en général de 10-15 pages, d'être d'abord validé par un comité de lecture universitaire francophone. Et donc ce sont des textes aujourd'hui qui sont plus pointus qu'à l'origine, qu'en 98. Parce qu'il m'a semblé que c'était intéressant de serrer un petit peu la ligne éditoriale, voyant un petit peu certaines, on peut le dire, hein, certaines dérives des textes sur Internet. Il m'a semblé intéressant, en 2006, de créer quelque chose d'un petit peu austère.
D'accord, on continuera à en parler tout à l'heure. Joachim, maintenant, est-ce que... Tu peux nous
oui, moi, de ton blog. Je me suis lancé dans le blog il y a un peu plus d'un an en fait. Après avoir lu pas mal de blogs pendant un certain temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de manière très intuitive, évidemment, de faire part de mon rapport au cinéma et de pas avoir peur de la dimension subjective et fétichiste de ce rapport-là. Quand je dis fétichiste, c'est qu'en fait, je me voyais pas du tout jouer aux critiques de cinéma, c'est-à-dire parler de tous les films que je voyais les uns après les autres, en essayant de faire des critiques très fondées, mais juste comme ça, en extrapolant des impressions que j'avais dans certains films. Et en fait, l'idée du blog, c'est comme, c'est une sorte d'album, comme un album de collectionneur, mais un album public, évidemment. Et l'idée qui m'intéresse, c'est une idée toujours très intuitive, mais c'est juste de faire plutôt de travailler sur le croisement, la mise en relation, souvent à partir du cinéma, mais mais en faisant dialoguer le cinéma avec d'autres disciplines, comme généralement l'architecture, l'urbanisme, ou voire avec la chanson ou le football même. Et de travailler les confrontations et de profiter de l'archive géante que constitue Internet pour mettre en relation des sites ou des images et d'aller piocher là-dedans. Donc voilà, en fait c'est assez difficile d'en parler parce que c'est vraiment une démarche assez intuitive, en fait assez subjective. Et voilà quoi. Enfin, j'ai comme l'impression, avec l'idée quand même de faire partager ça, quoi, de l'idée de comme un album, voilà, ouais, comme une espèce d'album public. Quoi.
Julien, on va passer à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie cinéma du web des Inrocks?
Oui. Donc, je m'occupe, après avoir été pendant quelques années au service cinéma, du site cinéma du portail des Inrocks sur Internet. Ce site est évidemment d'abord un prolongement de ce qu'est le journal sur papier, avec un certain nombre de textes qui sont repris, donc notamment les critiques qui sont reprises sur le site. Il y a également une base d'archives qui doit être une des plus grosses bases d'archives francophones critiques en accès libre, puisque tout ce qui s'est écrit dans les Inrocks depuis le passage à l'hebdo en 1995 est numérisé en archives en libre accès et gratuitement. Donc tout ça constitue une sorte de prolongement de ce que fait le journal. Il y a également évidemment une partie de suivi news de l'actualité. Au-delà de ça, mon travail de responsable éditorial est plutôt de travailler, d'assurer évidemment cette continuité entre le journal et Internet, mais surtout éventuellement d'essayer de faire du site autre chose qu'un pur prolongement du journal sur Internet. Donc évidemment, en tirant parti des possibilités d'Internet, à la fois en termes d'espace, en termes de forme multimédia, donc évidemment en utilisant la vidéo et le son, et puis éventuellement en essayant d'inventer autant que possible des formes pour Internet qui ne seraient pas possibles sur papier, qui ne seraient pas lisibles sur papier, qui permettent une autre approche des objets qui sont des objets qui nous intéressent déjà dans le papier, mais sont traités d'une manière différente. Donc, actuellement, c'est un site qui... Il y a du cinéma sur le site des Inrocks depuis un peu moins d'un an seulement. C'est un site qui est en refondation actuellement, puisqu'il a au départ été un peu mal conçu. Donc on a une nouvelle version qui débarque sur Internet dans une dizaine de jours et qui devrait permettre de prolonger cette démarche-là et essayer d'inventer aussi de nouvelles choses et de présenter de nouvelles choses. Voilà.
D'accord, bon, on y reviendra sur ça tout à l'heure. Frédéric, en fait, tu écris depuis quelques années sur Chroniqueur, mais la critique du cinéma, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé. Tu as toujours écrit, plus ou moins d'ailleurs... Même avant, j'ai l'impression...
Non, j'ai l'impression que je fais partie un peu du... Puisqu'on parlait de chronologie tout à l'heure, c'est-à-dire que Chroniqueart fait partie d'une chronologie justement du rapport d'Internet à la culture plus généralement. C'est-à-dire que Chroniqueart a été, je crois, fondée en 97, je crois qu'on a fait, je crois que c'est il y a 10-11 ans. J'ai participé à la rubrique cinéma dès le début. Et nous, c'est l'inverse des Inrocks, c'est-à-dire qu'on a commencé en étant un site. Et c'était l'époque où Internet était surtout une machine à connexion, quoi. D'informations, il y a beaucoup de banques de données, des choses comme ça déjà au début. Et l'idée de Chroniqueart, que je n'ai pas du tout fondée non plus, qui était fondée par trois personnes, dont une qui a quitté justement parce qu'elle a considéré que la promesse n'avait pas été tenue. Et la promesse, c'était de faire un site de contenu, sur les différents lieux culturels, enfin disciplines culturelles, donc cinéma, musique, jeux vidéo, littérature. Mais avec l'idée que finalement il y avait des gens qui regardaient Internet, qui lisaient peut-être même sur Internet et qui lisaient plus la presse critique, la presse écrite. Alors par contre, ce qui s'est passé très très vite, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est assez drôle, c'est que très vite, enfin au bout de 5 ans, c'est devenu un magazine papier. Et c'est très intéressant par rapport à la rubrique cinéma, même s'il y a beaucoup de gens qui étaient au départ qui n'étaient plus, c'est que les gens se réjouissaient tout d'un coup que ça devienne un magazine papier. Parce qu'ils disaient c'est bon, on va être dans, ça va être le vrai lieu, le grand lieu. Et moi-même, j'ai dit ah bon, nos textes ils vont plus être sur le net, ils vont être sur... bon. J'étais extrêmement naïf par rapport à ça, découvrant premièrement que les papiers étaient plus lus sur le net que sur la presse écrite. Donc, c'est le premier constat très individuel, hein, je parle de moi. Là, qu'il y avait plus d'écho encore aujourd'hui de trucs que j'ai écrits il y a 5 ans que des choses que j'ai pu écrire il y a 5 ans, y compris au cahier, puisqu'à un moment, je suis passé au cahier, j'ai écrit 6-7 mois au cahier. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la rencontre, c'est vraiment de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est évident qu'il se passe quelque chose et qu'on est, on est évidemment dans la mort d'un truc, mais on est dans le début de quelque chose. Et ce quelque chose est très, très chaotique. Donc face au chaos, on peut essayer de retrouver, d'essayer de ranger, on peut essayer de s'abandonner un peu au chaos. Alors c'est pour ça que depuis 3 mois, j'ai accepté d'être dans une des éditions participatives du site Mediapart, considérant que le projet global Mediapart était intéressant, comme Rue 89. Enfin, voilà. C'était l'idée d'effectivement de casser un peu le flux de la critique, je dirais, conventionnelle, parce que j'espère qu'on ne va pas être trop consensuel. Moi, je pense réellement qu'aujourd'hui, le métier de critique, enfin bon, ça fait 30 ans, il y a 30 ans qu'on a posé la question de la crise de la fonction critique, mais le métier de critique aujourd'hui évolue énormément. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec le cinéma ? Et Internet, c'est un moment de pure diffraction de la parole, quoi, critique. Alors effectivement, on peut avoir un rapport comme ça de protection, en disant il faut garder la vieille maison critique. Voilà. Moi, je pense que ce qui arrive à la critique en ce moment, c'est ce qui arrive au cinéma à un moment donné. C'est-à-dire que la critique est un monde... Je dépasse un peu la question de présentation, mais je voudrais... Bon, il y avait Godard qui avait dit les professionnels de la profession, tu sais, au moment où il avait reçu. Je pense qu'il y a les professionnels de la profession maintenant dans la critique. Et que les gens qui participent à des choses sur Internet, des propositions comme le site de Joachim, propositions comme le blog de Luc, ça participe de quelque chose qui est de dire, bon, bah, sortons de la professionnalisation, sortons du jeu de la critique et faisons autre chose. Et alors, évidemment, en prenant beaucoup de risques, hein, puisque le risque notamment de sortir de quelque chose qui est très balisé, qui est la critique, du secteur de la culture. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a un sol qui tremble, ça tremble depuis 30 ans, mais Internet accentue vraiment le truc, le séisme, quoi. Donc voilà, moi, je m'engouffre, mais je précise tout de suite que je ne suis pas du tout un geek, justement. C'est-à-dire que je ne passe pas du temps devant Internet. Par contre, quand je passe du temps et que je tombe sur le site de Joachim pour la table ronde, là, je suis carrément impressionné. Je me dis que je suis très, très old school dans ma manière de penser le cinéma, l'importance, puisque là, je découvre un objet qui, plastiquement, est très, très beau, un objet beau, comme une revue pouvait être belle, une revue papier, que le contenu est non seulement intéressant, mais extrêmement bien écrit, qu'on est dans un rapport intime au cinéma, donc là, je m'y retrouve complètement, et je m'aperçois que c'est dans ces sites-là qu'il y a le plus bel hommage à la critique d'il y a 30 ans, quoi. Beaucoup plus que dans la revue d'aujourd'hui, qui essaie, les revues presse écrite, qui essaie de poursuivre cette tradition de la presse écrite, tant bien que mal, quoi, et plutôt mal que bien par rapport à l'économie, quoi. Bon, donc, voilà, bon, j'ai... C'est beaucoup plus loin que la présentation. Qu'est-ce que je fais pour essayer de poser un peu pourquoi je suis là aussi, quoi.
Oui, oui. Mais on va revenir sur toutes les questions que tu poses. Juste, Luc.
Donc... Alors, je vais présenter un peu le projet du blog qui a été initié par Michel Rayac en octobre dernier. Grosso modo, le constat, c'était de dire que l'antenne était en train de changer, que Arte n'a pour l'instant pas réussi à proposer une émission de cinéma à l'antenne, cinéma long métrage. Court-circuit a été et encore un petit peu un essai. Mais très limité. Donc, il s'est dit, bon, bah, Internet est certainement aujourd'hui l'endroit où on pourra faire une émission de cinéma totalement libre. Et c'est vrai qu'il a tenu promesse, puisque moi, je n'ai jamais eu une liberté comme cela, que ce soit écrit, télé, documentaire, bonus DVD. Liberté à deux titres, c'est-à-dire qu'il m'a toujours laissé faire ce que je voulais, et pour l'instant, en mettant de côté le problème de droit, le problème d'image. La citation a été autorisée sur Internet, elle est encore un peu autorisée, on a l'impression. Il ne faut pas dépasser certaines secondes, j'imagine, mais je me suis retrouvé tout d'un coup avec tout ce que je ne pouvais pas faire à court-circuit. C'était du coup possible parce que c'était intime, parce que c'était un blog, c'est encore un média à défricher, etc., que l'on ne maîtrise pas du tout. Et c'est vrai que dans ces failles-là, des gens comme nous, certainement, on a pour l'instant un peu de chance, on peut s'engouffrer. Donc moi, en fait... j'ai été critique papier, ça m'arrive encore de publier parfois à l'écrit, mais c'est vrai que la forme critique que je développe depuis maintenant 10 ans, c'est très télé, c'est très, en tout cas, audiovisuel. Et donc, du coup, pour moi, je vois bien la différence, c'est-à-dire que cette intimité que j'ai pu proposer pendant 8 mois de blog, c'est même cette collision d'images que j'ai pu proposer pendant 8 mois de blog, est impossible en télévision, absolument impossible. L'intimité n'est pas acceptée. Et par exemple, moi, j'ai toujours trouvé que Internet était un média vraiment de la collision, collision de son, collision d'image, collision de photos. Et partant de là, je me suis dit, moi-même, je vais faire que ça, parce que dans ma vie, ça m'arrive toujours de penser à des images dans ma vraie vie. Donc j'ai fondé quasiment un site, enfin, en tout cas, mes contributions étaient liées à ça. J'allais au musée Grévin, j'y étais jamais allé, c'était un rêve de gosse, et en plus j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Et j'ai monté là-dessus des sons de Marianne Bad, enfin, des choses comme ça. J'ai lu sur des images, j'ai monté sur des images de Vertigo, des extraits du livre de George Rodenbach, Bruges la morte, en essayant à chaque fois de trouver une forme. Voilà. C'est-à-dire, on est dans un nouveau média. On a la liberté pour l'instant. Je pense que malheureusement, enfin, ça, je ne veux pas être pessimiste, mais ça va bouger. Il faut trouver une forme. J'ai fait ma rétro 2007 que en typo avec des sons. Et ça, évidemment, encore une fois, en télé, c'est pas possible. Donc, je trouve très positif de se dire que le nouveau média permet quand même de nouvelles formes. Et puis, oui, encore une fois, cette intimité. Moi, je tournais autour dans mes bouquins, je tournais un peu autour dans court-circuit. J'étais pas loin de dire je. Et puis alors là, pour le blog, bah, j'y suis allé, j'ai acheté ma petite caméra. J'aurais dû vous filmer et j'en aurais fait quelque chose sur le blog, mais comme là, il a arrêté pour l'été, c'est pas possible.
Oh mince alors.
Voilà, je vous aurais filmé vous aussi. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 8 mois. Dès que je me baladais quelque part à une table ronde ou au festival de Sarlat, avant une petite conférence autour de René, j'ai fondé toute l'avant-conférence sur l'angoisse de parler devant des centaines de gens. Alors, c'est à la fois très intime, c'est presque anecdotique, et en même temps, ça raconte des choses. Tout comme quand je sors mes cahiers d'adolescents de Rosanna Arquette ou de Roy Scheider, ça peut paraître vraiment quelque chose d'anecdotique. En même temps, c'est un critique de cinéma, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, on s'en fout, hein, franchement, qui montre son cahier d'adolescent à 14 ans, qui accepte de le montrer, qui l'a gardé, et qui accepte de le montrer. Je pense que ça dit quelque chose d'un cinéphile qui a grandi dans les années 80. Enfin, très immodestement, j'espère que ça dit ça aussi. Et moi, mon rêve, aujourd'hui en tous les cas, c'est de faire de la critique de cinéma audiovisuel sans voix off. Et je pense que le travail de montage, l'écriture par le montage, elle existe. Alors pour l'instant, moi, j'ai toujours fait beaucoup de voix off, donc j'en ai un peu marre. Et je pense que ça va se développer aussi dans la prochaine version du blog d'Arte, une critique de cinéma sans voix off. La collision, bah, c'est ce que font de grands cinéastes comme Mathias Müller ou d'autres. Mais quand vous voyez Phoenix Tapes de Mathias Müller et de Christophe Girardet, c'est une critique d'Hitchcock sur 40 minutes, uniquement par le montage, par des choix de plans, de durée, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que je pense sur Internet tout à fait faisable, une forme de critique cinéma vraiment, vraiment intéressante. Donc j'espère qu'un jour, et je pense que nous, pour l'instant, notre site, il est en stand-by. Pendant l'été, on n'y travaillera pas et on est de retour en octobre ou septembre, si tout va bien. Mais c'est ce que je vais essayer de développer aussi.
Voilà. Yeah. Moi, je fais un peu figure de dinosaure. Moi, je me souviens d'une époque où, au table ronde, j'étais toujours le plus jeune. Là, je suis de loin le plus âgé. Ça fait, donc, on dit que ça fait 30 ans que la critique de cinéma écrite tremble. Bon, c'est 30 ans que j'écris. Donc, c'est 30 ans que je tremble. Du coup, j'ai plus le trac quand je parle devant des centaines de personnes, mais ça vient avec aussi, vous verrez, avec les années. Ce positif n'existe que sous forme écrite. À part cette chose très importante, quand même, qu'il y a l'index total de tous les numéros de positifs en ligne, fait par d'ailleurs les Calanges, les fous furieux qui mettent en ligne beaucoup d'autres index. Mais voilà, ça nous permet d'être plus facilement cités dans les critiques de cinéma sur Internet ou par écrit. J'ai écouté avec beaucoup... Heureusement que je suis le dernier, là, parce que j'avais peur que vous commenciez par moi, comme on avait commencé.
Non, mais c'est un peu fait exprès.
Merci. Du coup, je peux réagir. C'est vrai que moi, ça me plairait beaucoup d'avoir gardé mes cahiers d'adolescents et de pouvoir les mettre où que Internet ait existé à cette époque-là. Parce que parfois, quand j'en retrouve un, c'est vrai que ça me sert, parce que ça, ne serait-ce que pour me rendre compte que parfois j'ai vu des films que je les ai oubliés et que j'avais écrit sur ces films-là, j'ai eu le temps de les oublier et puis que je réécris dessus et puis pour voir si j'en pense la même chose, par exemple. C'est donc première chose. Deuxièmement, sur la professionnalisation de la critique vis-à-vis de positif, je pense qu'on ne craint pas grand-chose, puisque comme c'est une revue bénévole, il n'est pas question d'en faire notre profession, d'écrire un positif. Par contre, j'ai assisté à la naissance et à la mort d'un support qui s'appelait Zurban, où j'écris du numéro 0 jusqu'au dernier numéro. Et en fait, quand Zurban a été lancé, je me souviens, ça me faisait bizarre, mais ça a été lancé sous le titre Zurban.com. Et il y avait une équipe effectivement qui était chargé du site, et c'est d'ailleurs un peu ça qui a fait couler Zurban, parce que c'était trop important. Le problème, c'était aussi le coût de développer sérieusement un site, et ce dont je me suis rendu compte et qui était très bien quand il y avait Zurban.com, c'est que le papier de Zurban était en général très calibré et très court,
fonction des annonceurs, donc en plus diminuant chaque mois quasiment. Et on me disait, mais oui, mais par exemple, l'interview que tu as faite avec Wong Kar-wai ou Isabelle Huppert, etc., tu peux la mettre en version intégrale sur le net, comme ça les gens pourront la lire. Pour moi, c'était une révélation, parce que je n'avais jamais eu ce problème-là à Positif. À Positif, on fait une interview de 15 pages et puis ça passe. Donc voilà. Sinon, moi, je me sers d'Internet, en fait. Et je me souviens, il y a eu un débat il y a quelques temps sur le fait que des courtes citations de Positif étaient balancées sur les sites commerciaux. Et moi, je trouvais ça très bien. Ça permettait, avec des petites étoiles, d'ailleurs, ce que nous, on s'interdit de faire dans la revue, mais ce qu'on pensait était résumé, encapsulé en petites étoiles et en petites phrases qui permettaient à des gens, éventuellement, qui n'auraient jamais eu l'idée d'ouvrir Positif. Donc ça nous servait un peu de vitrine promotionnelle, déjà. Maintenant, je pense que... sur le fait que toutes les archives, un jour, Positif, tous les textes se retrouvent sur Internet comme un revenu non négligeable, notamment ici au salon de Cinédition, c'est la vente d'anciens numéros. Je pense que ce ne serait pas forcément une bonne chose, mais quoique, puisque je m'aperçois aussi que quand j'ai envie d'imprimer quelque chose que je trouve sur le net, ça me coûte souvent plus cher que si je l'achetais par écrit, parce que l'encre, le papier, tout ça, ça coûte cher d'imprimer. Et c'est toujours mieux d'imprimer. C'est-à-dire que aussi l'avantage d'une revue comme Positif par rapport à certains magazines, c'est que Positif, ça se garde. Positif, c'est des beaux objets qui sont, quand on fait des numéros spéciaux, c'est sur les tables des salons. Enfin, surtout quand on est invité, ils les sortent pour les mettre sur la table. Et donc, voilà, ça reste dans la bibliothèque. Donc peut-être qu'il y a une coexistence pacifique possible entre les deux modes de fonctionnement liés à Positif, ça je sais pas, mais bon, on va en discuter, je pense.
Et comme internaute, justement, hein, comment vous regardez justement tout ce qui se fait sur Internet aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose
Je suis très jaloux quand je vois. Alors, il y a une chose aussi, mais c'est très personnel, c'est que moi j'ai créé à Positif depuis 1979, mais j'ai jamais aimé écrire. Voilà, c'est toujours été très douloureux pour moi d'écrire. C'est pour ça que petit à petit, je me suis dirigé vers d'autres manières de faire partager ce que j'aimais en cinéma sans écrire. C'est pour ça que j'ai fait des documentaires, par exemple. Et aujourd'hui, faire des documentaires sur le cinéma, c'est un calvaire épouvantable, justement, à cause des extraits qu'on ne peut pas citer. Et moi, je suis comme Luc, mais plus au départ. C'est-à-dire que moi, je ne mets jamais de voix off dans mes documentaires. Enfin, il y a parfois des interviews d'autres gens, mais je coupe toujours ma voix. Et ça pose un énorme problème parce que les images coûtent tellement cher que moi, j'arrive quasiment plus à faire de documentaires, sauf s'il s'agit de choses très ponctuelles, comme des suppléments DVD, par exemple, où là, les droits des films sont libres pour le bonus. Mais ça ne devient pas un documentaire, ça ne peut pas être exploité par ailleurs pour des questions de droits. Donc, pour moi, l'écriture critique qui se continue dans l'audiovisuel, le documentaire, et voir si on a un droit de citation, raisonnable à travers le blog, pour moi, c'est formidable comme idée.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière d'écrire sur le cinéma sur Internet ? C'est une question un peu générale que je voudrais vous poser à tous. Qu'est-ce qu'Internet a apporté finalement à l'écriture sur le cinéma ? Alors aussi bien l'écriture au sens littéral du terme que trouver une autre écriture, une écriture comme tu le fais Luc, mais aussi comme tu le fais Julien sur le site des Inrock, enfin je parle des interviews notamment, où tu essaies de créer aussi un style, quelque chose de différent, et ce que fait Joachim aussi est assez différent de ce qu'on peut trouver dans la critique traditionnelle, ce qu'on peut appeler la critique traditionnelle. Donc je voudrais les uns les autres que vous réagissiez. Chacun, vous avez une manière, je trouve d'ailleurs, d'aborder dans vos propres supports internet respectifs cette question-là. Je ne sais pas qui veut commencer.
Moi, j'ai déjà un petit peu répondu, mais je peux juste rajouter quelque chose. Moi, dès le début, je me suis dit que ce blog marcherait, en tous les cas pour mes contributions, si j'arrivais à créer un personnage. Très proche, quasiment à 100% moi. Il se trouve que je mens un peu. Je refais la réalité, j'appuie sur quelques sentiments fétichistes qui ne sont pas toujours vrais, etc. Mais en tous les cas, j'ai créé un personnage qui est dans un appartement. Il se trouve que c'est le mien. Je filme mon appartement. J'ai un chat, j'ai une femme. Voilà. Donc je filme ma femme, simplement ses mains. Je filme mon chat, surreptissement, comme ça. Et puis cette intimité-là, Ah, moi, c'est marrant parce que c'est vraiment des films, des petites formes courtes faites à la maison. Pour le coup, vraiment, c'est une petite émission de cinéma faite à la maison, dans mon appartement, une presque émission de cinéma. Et je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi, mais j'ai toujours trouvé que Internet était un média très intime, vraiment très intime. Moi, je passe mon temps devant YouTube et Dailymotion. Pour moi, les deux révolutions, il y a eu certes Google qui a été pour moi une révolution importante, j'imagine comme tout le monde, tout d'un coup, on pouvait avoir accès à toute la mémoire du monde, quasiment. Mais c'est aussi YouTube quand même, c'est la vidéo. Les vidéos à la fois d'archives ou faites aujourd'hui par les internautes, faites souvent avec aucun moyen, faites avec rien. Ça, c'est l'intimité pour moi. Et contrairement à la télévision, ce sont des vidéos que je peux regarder quand je veux. Et le nombre de fois que je veux, parfois en boucle. Quelque chose qui m'amuse que sur YouTube, on l'a tous fait, on le regarde plusieurs fois. Alors imaginez, pour moi, je viens de la télévision. Moi, mes parents n'ont jamais vu mes courts-circuits parce que ça passait à 1h du matin. C'était impossible. Ils dormaient à cette heure-là. Du coup, maintenant, ils voient mon travail parce qu'ils peuvent le voir quand ils veulent sur leur ordinateur. Donc, quelle intimité. Enfin, je veux dire, c'est, je touche aujourd'hui moins de gens qu'à court-circuit, mais des gens que je n'avais jamais touchés avant. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et je trouve que c'est pour moi, c'est totalement génial de se dire qu'on essaie de développer une nouvelle forme, partant du fait que c'est un nouveau média. Et en plus, j'ai l'impression qu'on touche aussi de nouvelles personnes. Mais en tous les cas, moi, je me suis dit que ça marcherait que s'il y avait un personnage qui, à chaque fois... Et si à chaque fois... C'est-à-dire que la liberté, il faut faire attention, parce que moi, je ne suis pas très convaincu, parce qu'on n'a pas de censeur. Michel Rayac n'a pas joué le rôle de censeur. Qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi, notamment au niveau de la durée. Moi, j'ai eu la même exigence que court-circuit. C'est-à-dire que si je m'ennuie devant un de mes sujets, je coupe. C'est le béaba, hein. Mais sur Internet, on pourrait se dire non, ça a du sens de laisser en durée, etc., etc. Non, moi, je n'ai jamais fait. C'était une demi-journée de montage, donc c'est très peu pour des sujets de 10 minutes. Ce n'est pas très bien monté. C'est monté à une demi-journée de travail, mais il y a quand même du montage. Il y a du montage, il y a une écriture que j'espère ambitieuse. Mais en tous les cas, il y a une attention donnée à chaque forme courte que j'ai proposée sur ce blog qui est intimement, éditorialement, exactement la même ambition que pour un sujet télé qui coûte 100 fois plus cher.
Et précisément, il me semble que c'est l'un des enjeux en fait, d'Internet, pas seulement pour la critique, mais pour toute forme de contenu, qu'il y a une espèce d'ambivalence en fait, de ce rapport à l'espace infini qui nous est offert, puisqu'on a à la fois... donc cet espace considérable plus qu'infini qui nous est donné pour publier du texte, de la vidéo, du son, des images. Mais en même temps, on a un lecteur, un lectorat dont on nous dit qu'il ne lit pas sur un écran d'ordinateur. Alors, il y a des gens qui impriment, il y a des gens qui trouvent ça trop coûteux. Pour la vidéo, la question ne se pose pas, mais il me semble que précisément c'est l'un des enjeux sur lesquels Internet appelle de nouvelles formes, parce que Internet, c'est ce lieu formidable où on peut publier une interview de 30 000 signes dans sa version intégrale, alors que seulement 5 ou 7 000 signes passeront dans l'édition papier. Mais c'est aussi ce lieu déplorable où, passer deux paragraphes de texte, on cligne des yeux et on passe à autre chose, sauf à imprimer. Sauf éventuellement s'il y a un effort de présentation, un effort de découpage, de montage est fait, de pagination peut-être. Donc ça, c'est la même façon qu'évidemment de moins en moins les journaux, et probablement parce que le lectorat évolue, l'œil du lectorat évolue, notamment à cause d'Internet, de la même façon que dans les journaux on a un travail de mise en forme qui évolue, Internet appelle une évolution, et je pense qu'elle est différente de celle qui s'effectue sur le papier, de la manière dont on présente des contenus. Si on veut aujourd'hui, en étant dans une réalité pragmatique de lisibilité de ce qu'on produit, de ce qu'on met en ligne sur Internet, il me semble qu'aujourd'hui un sujet sur Internet qui serait mis en ligne exactement comme on est mis en forme exactement comme on le fait sur le papier, il faudrait le mettre deux fois moins long que sur le papier pour des questions de lisibilité. En revanche, on pourrait également le mettre deux fois plus long, mais là il y a une forme à inventer.
Moi, je trouve que ce qui est vraiment marquant dans ce que tu décris, c'est que là, pour le coup, je sens vraiment deux mondes, quoi, entre ce que me décrit Yann, Sonny Lux. C'est-à-dire que l'exercice critique tel que tu l'entends et tel que tu le formules, ça se rapproche davantage d'un discours de création, d'écriture artistique, que du journalisme. Quand je parlais tout à l'heure, Yann, de professionnalisation, je ne parlais pas tellement d'une économie salariale. Je parlais davantage d'un état d'esprit. Joachim, tout à l'heure, il a dit je ne me sentais pas de faire le jeu du critique qui verrait les projections. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une manière qui continue. Tu disais que tu écrivais depuis longtemps un positif qui continue comme autrefois. Il y a quelque chose qui change. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a envie de se saisir de cette nouvelle offre, opportunité, ou est-ce qu'on n'a pas envie ? Moi, j'ai vraiment le sentiment que quand Joachim fait son, son blog, il est très proche de toi, Luc. C'est-à-dire qu'en gros, il va dire des choses sur le cinéma à partir de lui-même. Et pour moi, quand je dis professionnel, c'est le critique professionnel, critique de spectacle, comme on disait autrefois, qui ne se cache pas derrière son texte, mais qui est dans l'évaluation par rapport à un point de vue un peu de magistère, un peu. Et aujourd'hui, Internet, ça casse ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu es d'accord que le fait que ça ouvre la possibilité d'écrire à des gens qui ne sont pas forcément des très grands prosateurs déjà ? Et moi, j'aime bien des fois des textes parfois mal fichus sur le cinéma où il y a une intuition que je n'ai pas trouvée dans toute la presse dite professionnelle, quoi.
Disons que je les supporte plus sur Internet que par écrit, ces textes-là. Parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose où j'aurais moins d'exigences que si je l'avais acheté, par exemple, déjà. Mais moi... Oui.
Est-ce que tu as déjà lu, par exemple, des choses sur Internet, oui, où tu te disais, tiens, c'est incroyable, je l'avais pensé, mais je ne l'ai pas écrit. Non, je ne peux quand même pas me permettre, dans une revue établie comme positive, d'écrire ça. Par contre, lui, bon, il se le permet, sauf que lui qui se le permet, il est peut-être lu par plein de monde, et que c'est peut-être ça qui se formule sur ce cinéaste-là au moment où il l'écrit, et que ça n'apparaît pas dans une revue.
Non, je n'ai jamais pensé vraiment ça dans ces termes, mais j'ai parfois été jaloux de choses qu'on pouvait se permettre en termes de navigation, par exemple, ou de liens. C'est-à-dire, moi, la critique idéale que je sens dans l'avenir, la critique de positif idéal, ce serait que dès que je cite un titre, le lecteur puisse appuyer sur un bouton et savoir exactement à quelle image je fais référence, à quel titre. S'il connaît déjà, il n'a pas besoin. Mais le problème souvent dans positif, c'est à quel niveau de compétence ou de culture on situe le lecteur. Et c'est l'idée de ne pas, par exemple, écraser un lecteur sous des références qu'il ne connaît pas, qui vont rendre la lecture très difficile. Alors que là, je perçois qu'on peut au contraire attiser sa curiosité sur des choses qu'il n'aurait jamais l'idée d'aller voir par lui-même. Donc voilà, par exemple, je fais un article sur un film d'un certain cinéaste qui me fait penser à un autre cinéaste et à telle séquence. Donc tout de suite, pouvoir visualiser la séquence avec autorisation de citation. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est fabuleux. Parce que moi, sinon, mes critiques de positif, si je devais m'adresser à tout le monde, elles dureraient 10 fois plus. Donc, je suis obligé de beaucoup concentrer. Ce qui d'ailleurs, m'a appris à écrire aussi. Parce que quand on a la liberté totale, c'est vrai que, comme tu disais, on n'apprend pas à se discipliner et puis on ne fait pas de progrès. Donc, il faut savoir se donner ces contraintes. Mais ce dont je m'aperçois, c'est que quand même, nous tous, on est partis d'autres choses, c'est-à-dire qui de l'écrit, qui des émissions de télévision, etc. Et que on a appliqué un petit peu la discipline avec une absence de frontières grâce à Internet, mais on n'est pas complètement non plus des enfants purs d'Internet, je crois.
Moi, je voulais rebondir sur l'ambivalence, c'est ce qu'a dit Luc, sur l'ambivalence de l'espace entre le fait qu'Internet met à disposition un espace infini et en même temps qui reste un média très intime. Et cette ambivalence de l'espace, je trouve, elle se ressent aussi dans le temps. En fait, c'est-à-dire que je crois que la grande spécificité d'Internet, c'est finalement que c'est plus un média d'archives que d'actualité. Et où c'est plutôt un média qui met en relation les archives et l'actualité. Et en fait, moi-même, j'écris. Enfin, je me rends compte finalement, j'écris assez peu sur les films récents. C'est un billet sur disque qui traite finalement d'un film récent qui me paraît important ou qui me paraît pointer un symptôme. Mais c'est toujours, enfin, l'idée, c'est toujours de le mettre en relation avec une mémoire, enfin, quelque chose que finalement j'ai l'impression la critique fait pas tant que ça, ou alors le fait plus en passant. Enfin, la critique qui me paraît moi finalement très très prisonnière du rythme de l'actualité, des contraintes, des sorties et du discours ambiant. Alors que le blog permet justement l'exploration, pour ma part, de ma propre cinémathèque imaginaire. Et ça se retrouve aussi dans Internet, c'est-à-dire que évidemment, c'est comme tout reste, on peut, comme tu dis, on peut tomber sur des textes écrits il y a 5-6 ans, on peut remettre en relation, exhumer comme ça des pépites ou des archives tout à fait pertinentes qui remettent, qui redonnent un éclairage tout à fait pertinent sur la situation. Et en fait, c'est, euh, C'est, je pense, c'est la conjonction, c'est l'ambivalence d'espace et l'ambivalence de temps qui fait la richesse et la liberté du média Internet.
Alexandre, est-ce que tu veux réagir ?
La pluralité en fait d'aujourd'hui est très emblématique. Parce que ce qui est formidable avec l'Internet, c'est qu'effectivement, on a diverses formes critiques, mais assez démultipliées. Le blog personnel, le blog collectif, le blog audiovisuel, le blog parfois même sonore, le site commercial d'actualité, le site de cinéma non commercial, des revues avec des comités de lecture en ligne, ou des sites sans comité de lecture. Peut-être ce qui a changé, parce que je dirais qu'effectivement, ça n'a pas tant changé que ça, à part quand effectivement il y a des expérimentations via le support, mais en termes de critique, je pense que depuis quelques années, il y a eu un vrai travail autour de la pédagogie du cinéma via les sites internet. Je pense à Quai des Images, Télédoc, Zéro de Conduite, des blogs et des sites de cinéma. Qui ont une formulation des contenus qui est très spécifique, puisque là, on va au maximum cultiver les pistes pédagogiques, les analyses de séquences sur des pages et des pages et des pages. Peut-être que ce qu'il y a, le petit, dans la forme hein, de la critique même, sur les critiques de films ou l'analyse, qui a peut-être changé, c'est vraiment cette multiplication des possibles pédagogiques. Voilà. Alors, ce qui me gêne davantage par rapport à la critique à l'heure d'Internet, c'est l'anonymat. Et je suis assez surpris d'ailleurs qu'un site aussi extraordinaire qu'un blog aussi extraordinaire que Zéro de Conduite, par exemple, qui est vraiment en destination des élèves, des enseignants, publie des très très bons contenus, etc. Mais souvent de façon anonyme. C'est assez surprenant. La plupart des sites, que ce soit des sites personnels, etc., ou même sur les sites commerciaux, il n'y a pas la signature de l'auteur. Ça m'a toujours un petit peu gêné avec Internet. Milieu des années 90 à aujourd'hui, cette espèce de non-responsabilité, de non-incarnation de la critique ou du texte. Et c'est pour ça que sur, par exemple, sur Cadrage et sur les sites que Cadrage édite, sur les 12 sites qu'on a édités, il y a ma signature. Alors ça fait rire beaucoup de gens, bien sûr. On se dit qu'est-ce qu'il est narcissique, celui-là. Mais en fait, c'est vraiment pour donner à tous les sites, l'ensemble des sites Cadrage, l'idée qu'il s'agit de contenu où il y a la responsabilité, on va dire, du directeur de publication, la responsabilité des spécialistes qui sont en charge de ces sites thématiques qu'on édite, avec le nom, le prénom, etc. Ça peut se perdre parfois sur Internet, et je trouve que c'est un peu dommageable, quel que soit d'ailleurs le type de site ou de blog. Parfois, sur le blog, c'est au contraire très personnalisé, parfois non. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qui a peut-être changé par rapport à la critique de films, disons, traditionnels. Et puis, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai que, en termes de taille, en termes de volume de texte, effectivement, moi, ça fait 3 ans que j'écris pour Positif avec grand bonheur, parce que je considère que c'est toujours la meilleure revue de cinéma aujourd'hui. Dernièrement, j'ai écrit un texte sur Sol Bass, et un peu trop long. Michel Simon qui me dit « Oh là là, il faut couper tout ça ». Ouais, bon, c'est un peu la contrepartie, mais en même temps, comme l'a très bien dit, ça apprend aussi la concision. Mais c'est à la fois, ça double tranchant Internet, en fait, comme le papier d'ailleurs. Puisqu'évidemment, quand les textes sont trop longs sur Internet, il faut imprimer ou il faut passer des heures devant l'écran, etc. Et en même temps, c'est pas mal de pouvoir développer sur 15 pages, par exemple, des entrées d'encadrage qui sont très particulières et qu'on pourrait difficilement faire autrement dans une revue, ou peut-être sous forme de livre. Et puis, peut-être l'aspect correction interactive, on peut corriger. Moi, j'ai un de mes rédacteurs à Cadrage qui, environ une fois par semaine, m'envoie un mail en disant « Tiens, j'ai trouvé une coquille ». à peu près une fois par semaine. Alors, il est très obsessionnel, mais il a raison, puisque finalement, c'est aussi un des pouvoirs, évidemment, d'Internet, c'est de pouvoir corriger quelques coquilles. Voilà. Bon, ça, c'est des petits détails, mais c'est pas mal en termes de, on va dire, en termes de, voilà, de contenu. Alors, par rapport à l'archivage, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand un site, admettons, va disparaître ou n'est plus hébergé pour X ou Y raison, qu'est-ce que va devenir tout le contenu, etc. Ça, c'est un petit peu le problème. D'ailleurs, pour faire une histoire, s'il fallait faire une histoire de l'évolution des sites de cinéma, des années 90 à aujourd'hui, ça serait très difficile. Il y a beaucoup de sites qui ont disparu, malheureusement, et dont on n'a pas forcément gardé la trace visuelle ou la trace des contenus, etc. Et moi, ça m'angoisse totalement, cette disparition. C'est dommage. Alors, bien sûr, il y a le travail des bibliothèques, des médiathèques, etc., qui essaient parfois d'imprimer, constituent des dossiers thématiques sur un réalisateur ou un film. C'est assez fréquent maintenant que dans ces dossiers, il y a à la fois des contenus Internet et à la fois des contenus de revues imprimées. Néanmoins, on perd pas mal de choses en termes d'histoire. Voilà, c'est un peu... C'est un peu dommage qu'effectivement, moi je suis effectivement très attaché aux revues qu'on peut toucher, etc. Et aux livres. Alors je ne sais pas ce que ça va donner la diffusion maintenant commerciale des livres numériques, vous savez, avec les boîtiers, les romans qu'on peut avoir directement sur son petit bout de plastique, etc. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Personnellement, bien sûr, je préfère... très largement pouvoir garder une trace des choses. Et c'est pour moi, évidemment, le problème numéro un depuis maintenant plus de 12 ans, de perdre les traces des choses.
Là-dessus, moi, ça m'amène à un petit problème que j'ai avec la formulation de l'intitulé de cette table ronde, qui est donc la critique face au défi Internet. Il me semble que la critique n'est pas face du tout à un défi. Il me semble que c'est la presse, qui est la presse papier, même d'ailleurs la presse audiovisuelle également, hein, puisque les chaînes de YouTube posent des questions par rapport à la télévision traditionnelle, etc. Il me semble que la presse est face à un défi que présente Internet, évidemment, qui est un défi essentiellement économique. C'est un fait qu'aujourd'hui, les gens consomment l'information différemment dans plus de lieux. Et donc, évidemment, cela crée un manque quelque part dans les caisses des entreprises de presse habituelles, qui doivent donc trouver un nouveau modèle qui peut passer par Internet. Il me semble que la critique, elle, est face à de nouveaux enjeux, des enjeux de territoire. Parce qu'aujourd'hui, la critique peut se pratiquer sur des blogs, comme le font Joachim et Luc, et puis également donc, chez Mediapart, Frédéric. Des enjeux de forme, ça on a commencé à en parler assez largement, mais aussi des enjeux d'objet, finalement, puisque Internet met à disposition du regard, en fait, finalement, beaucoup d'objets visuels auxquels on n'avait pas accès, qui sont parfois des produits d'Internet, qui sont parfois exhumés par Internet, qui sont des objets télévisuels parfois auxquels on peut accéder et revisionner ce qu'on ne pouvait pas forcément faire, sauf à vraiment développer une intimité toute particulière avec son magnétoscope. Il y a la possibilité de faire référence très facilement à des extraits, comme le fait souvent Joachim, qui parle d'une scène et balance une scène de film sur YouTube à côté. Donc c'est en fait, il me semble que voilà, la question de ce déplacement de la critique en fait vers Internet porte moins sur un défi qui est plus celui de la question de la pérennisation des entreprises de presse dans leur forme habituelle, qui pose des questions pour tout le monde. Hein. C'est, aujourd'hui, si Positif n'a que cette vitrine-là sur Internet, c'est un choix qui évoluera peut-être à mesure que le monde évolue. Mais il me semble que c'est plus des questions de nouveaux enjeux qui sont vraiment multiples et qui ont trait à la fois à de nouveaux lieux, de nouvelles formes, qui sont en perpétuelle réinvention, et c'est plutôt les nouveaux lieux qui produisent de nouvelles formes, parce que le blog, au départ, n'est pas conçu pour la critique, et il y a des formes qui appartiennent au blog, qui, du coup, sont induites par le support blog pour des gens qui veulent y pratiquer la critique, ou quelque chose qui s'apparente à la critique. Et puis, donc, il y a ces nouveaux objets qu'il s'agit d'appréhender, qui sont assez peu embrassés, finalement, pour l'instant, par des publications de presse traditionnelle, Je pense notamment au Cahier qui avait entrepris ça un petit peu au début des années 2000 et où aujourd'hui seul subsiste une fenêtre sur leur site internet qui s'appelle Playlist, qui est tenue par Jean-Philippe Tessé et Stéphane Delorme. Et sinon, voilà, qui a vraiment le souci de poser la question de ces nouveaux objets qui sont sur internet, qu'on ne voit pas forcément paraître autrement à l'intérieur de la revue. Ça changera peut-être ou probablement, mais voilà.
Je précise, juste avant que je précise que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Il y a un micro dans la salle, donc vous pouvez évidemment poser des questions et intervenir quand vous le souhaitez. Voilà.
Il y a, alors, sur les enjeux, et je rebondis sur le terme de professionnalisation, en fait, parce que si on fait un peu de l'histoire de la critique de manière générale, hein, pas que de cinéma, la critique, c'est un genre littéraire. Alors, les genres littéraires, c'est comme la peinture. On peut peindre chez soi, les peintres du dimanche, ils peignent parce qu'ils ont quelque chose à peindre. Ils peignent. La critique, c'est pareil. On fait des critiques chez soi, tout seul. À un moment donné, on décide de le montrer ou non à ses proches. Puis on décide ou non. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, instantanément, ça peut être lu par la planète entière en potentiel. Donc, ça revient la question. Si la critique est un genre littéraire, on produit une œuvre. Que cette œuvre, en principe, elle doit être signée, puisque sinon une œuvre n'a pas d'identité si elle n'est pas signée, donc le problème de l'anonymat. Que cette œuvre doit être gardée, parce qu'une œuvre, elle est déposée. Donc se pose la question du dépôt légal, finalement, de ce qui est écrit sur Internet. Et on arrive à une sorte de paradoxe, qui est que pour tout garder, il faudrait tout réglementer et perdre par là même l'une des spécificités de la liberté de l'écriture sur Internet. Alors, comme tout ça est relativement nouveau, on ne se pose pas forcément la question, mais je veux dire, tes sujets sur ton blog, ce sont des œuvres audiovisuelles. Est-ce qu'elles sont reconnues comme telles, déposées comme telles, protégées comme telles? Ou est-ce que du simple fait que c'est sur un blog, c'est sur Internet, ça peut être repris par ailleurs? Moi, je dois dire que j'étais troublé. La première fois que j'ai fait comme nous tous, sans doute ici, très narcissiquement, un jour, j'ai tapé mon nom et puis j'ai sur Google et puis j'ai cherché. Et je me suis rendu compte que des tables rondes comme celle-ci avaient été entièrement transcrites, étaient disponibles sur Internet, étaient commentés par des blogueurs sur Internet, ce qui était intéressant d'ailleurs pour moi aussi, parce que nous les critiques, comme on est en bout de chaîne, on n'a jamais de retour quasiment sur ce qu'on a écrit. Il n'y a jamais la critique de la critique. Ce que tu exprimais tout à l'heure, c'était peut-être le désir d'être critiqué à ton tour, parce que grâce au fait que tu fais des critiques sur Internet, la seule chose qu'on reçoit de temps en temps, c'est des lettres d'insultes de réalisateurs. Mais bon, ce n'est pas vraiment la communication, ça. Donc voilà, c'est... Ça m'amène à poser des questions nouvelles sur les auteurs de critiques sur Internet.
Je suis censuré. On n'a pas parlé des blogs de Bertrand Tavernier. On a parlé de, c'est vrai, le blog de Serge Toubiana, le blog de Jean-Jacques Hanau, le blog de Bertrand Tavernier. C'est intéressant aussi de voir que, évidemment, la critique est écrite aussi par diversité en fait de personnes différentes, qu'ils soient cinéastes, preneurs de son, chef opérateur, interprète, élève, enseignant, amateur, retraité. Ça c'est assez intéressant de voir aussi qu'il y a cet aspect-là en fait d'internet. Moi, je trouve assez intéressant d'avoir le point de vue des cinéastes sur leur blog. C'est une approche assez assez passionnante. Alors après, oui, alors peut-être tu voulais dire.
Non, juste par rapport à ce que tu disais, toujours par rapport à ce qui change finalement. C'est que la question, tu disais, il n'y a pas de retour, hein, finalement, quand on écrit un texte dans une revue papier, il n'y a aucun retour. Je veux dire, les gens pensent qu'il y a un retour, les gens pensent qu'il y a t'as un projecteur sur toi, t'écris le texte sur... Ça concerne, au niveau mondial, 0,01% de gens, je veux dire.
Dans le meilleur des cas.
Et encore. Mais ce que permet Internet aussi, c'est face à des textes critiques qui sont perçus quand même, parfois dans une sorte de tu te mets en dessous et tu lis le texte critique dans la revue papier qui est belle, qui a une histoire, qui a une tradition, qui pour moi aujourd'hui est totalement dépassée. Enfin, un jeune étudiant qui me dirait ça, je lui dirais, ne t'inquiète pas du tout de ça. faut vraiment voir que la presse écrite, elle impressionne. Ce qui me plaît beaucoup quand je vois le premier travail que tu avais fait sur ton blog, c'est extrêmement libératoire. C'est-à-dire, ce qui se passe sur le net et ce qui s'écrit, alors parfois on est impressionné par la prose. Moi, je trouve par exemple que Joachim, tu écris très bien, même si on parle d'écriture, de style. Bon, mais parfois, c'est moins bien écrit. Et c'est très libératoire pour n'importe quelle personne qui veut développer une relation avec le cinéma. Moi, quand j'ai vu ton travail, je me suis dit, moi aussi, j'ai mes vieux numéros de première. Moi aussi, je peux avouer enfin que je ne suis pas arrivé à Bergman tout de suite ou à Kubrick tout de suite, que je suis passé par une... voilà. Non, pas Rue Barbare, moi, c'était autre chose. Tu vois, ça passe par La Femme publique avec Valérie Caprisky. C'est beaucoup plus... Non, tu vois, je ne l'ai pas encore écrit, mais tu vois, tu retrouves les archives, tu les montres, mais pas alors par contre, parce que moi, je pense que ça peut être une dérive. C'est très beau ce que tu dis sur Internet et la mémoire. C'est très marquérien aussi. Hein, et ton blog, il est très marqué par Marker. En fait, il est très influencé par Marker. Mais ce que nous dit Marker aussi, c'est la liberté totale, quoi. Jouissance totale du rapport au cinéma, surtout pas de contraintes par rapport à des choses institutionnalisées. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'on ait une jouissance d'écrire dans positif. Mais aujourd'hui, ce que je pense qui change avec une jouissance que j'ai ressentie moi aussi quand j'ai écrit au cahier, hein, je veux dire, ce n'est pas des choses qu'il faut censurer, mais par contre...
Il faudrait les comparer, les deux jouissances, pour voir.
Et moi, je suis très déçu que Kevin Elbureau ne soit pas là, parce que je pense qu'il arrive au cahier fondamentalement, dans tout le désordre que ça implique, hein, on est vraiment au cœur, quoi. On est vraiment au cœur. On les revues, les cahiers, c'est une revue qui bataille depuis... Je ne sais plus trop combien de temps, maintenant peut-être 2 ans, pour essayer de retrouver une forme. Voilà, d'où l'impression de pur désordre, d'où l'impression qu'on dit positif est la meilleure revue de cinéma, parce qu'elle garde une formule ancienne, à mon avis, qui doit exister encore. Mais le problème, c'est est-ce qu'on. La dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que finalement, ce que vous proposez dans le blog, ce que peut proposer le blog sur Internet, blog intime, c'est un peu ce que Garel disait par rapport au cinéma. C'est-à-dire, on fait du cinéma de poche et on se désintéresse un peu du cinéma qui se fait. Le cinéma de poche, ce n'est pas le cinéma qui se fait. Et j'ai l'impression que finalement, par les blogs intimes, il y a une sorte de détournement en se disant, bon, on se détourne de cette presse critique qui est peut-être survivante de quelque chose, qui sera peut-être morte un jour ou quoi. Et puis on fait un peu une œuvre de poche, mais avec le même mot, pas du péjoratif, le même mot que Garel utilisait, c'est-à-dire quelque chose qui s'intéresse à toi, et pas à un public qui, je termine là-dessus, je me demande des fois s'il existe, quoi. Les revues de cinéma, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai relu Positif depuis 3 mois, attentivement, et j'ai voulu en parler autour de moi. C'était une difficulté incroyable. C'est-à-dire, à part les critiques de cinéma, et quelques étudiants de cinéma, je ne rencontrais pas de gens, et c'était quand même assez flippant. Quand même. Je me disais, mais attendez, t'as pas lu le grand texte sur le Bienvenue chez les Ch'tis comme film symptôme, un texte assez intéressant, 6 pages. Il me dit, non, pas du tout. Et il n'était pas loin de me dire, mais tu sais, je m'en fous aussi. C'est-à-dire que non, mais je fais ça exprès parce qu'on va donner la parole au public. Et c'est vrai que la question de la critique, ça a quand même été longtemps quand même. Mais pourquoi vous êtes hautain? Pourquoi vous nous regardez de haut? Alors, ce qui n'est souvent pas le cas, parce qu'on est plutôt, au contraire, on est plutôt là. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Et avec Internet, bizarrement, ça revient un peu. Ça revient tout doucement. Hein. Ce n'est pas non plus les gens qui t'attendent en bas de la porte en disant formidable, moi aussi je ferai un blog avec vous. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du dialogue qui se réinstalle. Alors que moi, ce qui me fait de la peine, c'est que des gens écrivent des articles passionnants dans des revues écrites, que ces articles ne sont pas lus, que ça n'embraye sur rien, à part parfois sur une lettre d'un cinéaste prestigieux qui dit, franchement, vous n'aimez pas le cinéma, bon, toi, le faux débat qu'il y a eu il y a quelques années sur la critique. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, si ça peut servir à réconcilier un peu les gens qui aiment le cinéma, qui écrivent dessus, puis les gens qui vont dans les salles et qui aiment aussi le cinéma, bon, peut-être le changement, il est là, c'est qu'il y a un retour peut-être d'un dialogue possible et pas... une espèce de monde séparé, le monde du journalisme, un peu à la Balzac quand même, tu vois, Illusion perdue, et puis le monde réel, quoi, voilà, avec les gens qui se demandent qu'est-ce qu'un critique de cinéma.
Mais je suis pas sûr de ça du tout, en fait, parce que enfin, y a un autre revers d'Internet, c'est la démocratisation absolue, la publication de la parole. N'importe qui aujourd'hui sur Internet bénéficie d'un espace où exprimer un avis auquel il pourra donner le nom s'il veut de critique sur un film. Ce qui fait descendre d'une certaine manière le critique de cinéma professionnel de son piédestal, puisque son seul piédestal, c'est précisément le principe de publication. On peut considérer, Yann en parlait tout à l'heure sur l'idée de critique comme genre littéraire, que la critique, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que c'est notre métier, mais parce qu'on voilà, on rentre dans un genre, dans un exercice qui consisterait en un trajet... un double trajet du film à soi et de soi à soi au film qui passe par l'écriture, une écriture qui est qui est au sens large, évidemment. Ce que fait Luc en vidéo, c'est évidemment de l'écriture critique. Et qu'il y a des gens qui sont dans des revues, qui ont une carte de critique, qui sont dans une revue de critique de cinéma, qui font quelque chose qui n'est pas de la critique, forcément au sens le plus restrictif du terme, qu'il y a des gens qui, depuis toujours, dans leur chambre, maintenant sur Internet, maintenant sur un blog, font quelque chose qui est plus de la critique que ce qu'on peut lire dans certains journaux. Et donc, précisément, je pense que s'il y a eu ce piédestal de la publication, on n'a jamais eu à avoir... On n'a jamais eu le droit, je pense, on n'avait pas à être hautain vis-à-vis de cela, et encore moins aujourd'hui, on n'a pas à être hautain, je pense, dans nos chairs de critique de cinéma, vis-à-vis du blogueur, vis-à-vis de la personne qui pratique quelque chose qui, lors d'un exercice critique, parfois plus intéressant, parfois plus renouvelé par rapport à ce qu'on a à proposer dans des cadres de presse plus traditionnels, dans des revues, etc. Il me semble que cette chose-là, au contraire, est rendue, enfin cet exercice-là est rendu plus vivant que jamais aujourd'hui par Internet, même si le socle. Alors là, je préfère parler de socle que de piédestal, dont bénéficiait un peu le critique, qui était une histoire, qui était une espèce d'aura. Je pense s'évanouit un petit peu avec tout le monde publié, le tout publié sur Internet en termes d'avis de cinéma. Par ailleurs, ça rend aussi. Je pense qu'il faut établir un partage à partir de cela dans nos discours autour de tout ce qu'on dit. Tu parlais tout à l'heure de blogs de cinéastes, d'élèves, d'étudiants aussi. On peut aussi considérer que tout ce qui s'écrit sur un blog sur le cinéma, ça ne relève pas forcément de la critique. Il y a un partage à. Alors après, il s'agit évidemment de définir un peu ce dont on parle autour de ces tables rondes. Mais je pense que voilà, il y a énormément de choses différentes qui se passent sur Internet dans les discours sur le cinéma, que cela relève de la critique au sens plus restreint ou pas.
Alors. Un petit mot. Dire, parce qu'il y a une intervention.
Merci. Moi, j'aurais souhaité créer un producteur ici. Et je voudrais savoir l'impact entre le revenu du cinéma et le blog. Parce que M. Luc. Il est en train de démocratiser le cinéma, la manière de faire le cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le cinéma? Vous aviez parlé de réconciliation entre ceux qui aiment le cinéma et ceux qui vont dans les salles. Comment vous avez su qu'il y ait cette réconciliation? Merci.
Sur le deuxième point, non, je la souhaite, cette réconciliation. C'est trop souvent, j'ai constaté... Le mot divorce est fort, mais disons une coupure. Je l'ai constaté quand il y a des interventions en salle. Les gens ne vont pas facilement, et c'est moins un paradoxe, alors que justement, si on fait un peu d'histoire, non seulement le critique de cinéma, il est autodidacte, il est passionné, c'est ce qu'il définit, il aime écrire, il a un rapport avec l'écriture depuis toujours. Et finalement, en l'espace de 50 ans, le critique de cinéma, il est devenu un journaliste comme les autres aussi, alors qu'il ne devrait pas complètement l'être. Aujourd'hui, il est inséré dans des réseaux, il voit les films avant les autres, et qui sont ces faibles avantages, puisqu'on parle un peu là, si on parle rémunération, effectivement, c'est des sujets importants. Le cinéma, souvent, il gagne assez peu bien sa vie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui doit multiplier, qui doit cumuler un petit peu. C'est quelque chose qui est connu dans le monde journalistique. C'est un vrai problème aussi avec Internet, puisque c'est se donner le choix de s'exprimer sur le cinéma en sortant de l'économie salariale, monétaire, et c'est pas rien, ça, ce truc-là. Moi, c'est un souhait que je voudrais. Et je pense qu'effectivement, alors, le risque, Julien, tu l'as vraiment dit, c'est-à-dire le risque, la vieille question, le risque, c'est de dire tout le monde est critique de cinéma ou tout le monde écrit des choses intéressantes sur le cinéma, ce qui n'est pas le cas. Internet, c'est aussi un grand... C'est un grand bric-à-brac, il faut choisir. Mais quand tu disais que tu te mets des contraintes, on sent... qu'il y a un site avec contrainte, qu'il y a un site qui dit quelque chose, on le sent, mais dès la première page, quoi. On le sent dès la voix qu'on entend. Donc, c'est quelque chose que je souhaite, en fait. Mais c'est peut-être un grand mot, hein. Il n'y a pas non plus divorce et il y aurait réconciliation. En tout cas, ça donne la possibilité pour des gens de se dire « Moi aussi, j'ai un truc à penser sur ce film, et si je le disais ?» Et là, pour le coup, il y a des retours, il y a des réactions de blog. À Mediapart, par exemple, les réactions insultantes sont évacuées, ne restent que des réactions... Et moi, j'ai écrit sur les ch'tis. Et mon blog, en fait, je le commençais en disant les films que je n'ai pas vus. C'est-à-dire, je faisais un blog sur les films que je n'avais pas vus, en considérant qu'un certain nombre de films sont vus par d'autres que moi. et que ça ne sert plus à rien que je dise s'il ressemble davantage à Tavernier ou s'il ressemble davantage à ceci, considérant que la critique traditionnelle était un jeu qui ne servait plus à rien, pour être clair. Et donc, pour le coup, il y a des gens qui ont réagi à ça. Pourquoi vous parlez de films que vous n'avez pas vus? C'est inadmissible. Et ils me refaisaient le film. Je trouvais ça intéressant. La réaction que ça provoquait en termes de texte est plus intéressante que la réaction qu'ils auraient eue si j'avais écrit sur le film que j'avais vu. Parce que je sais à peu près, j'ai toujours pas vu. Je sais à peu près ce que je penserais. C'est ça le problème aussi. Je sais à peu près ce que je penserais. Mais c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible. C'est que le cinéma fait comme ça, qu'il y a quelques lignes droites et que je sais que. Après avoir vu un film, je me retrouvais à peu près, on peut définir ensemble les lignes droites, mais à peu près sur six entrées possibles, et que ce jeu-là, moi, me fatiguait de dire, bon, je le mets dans quelle ligne. Je préférais effectivement revenir sur un moment du film, et j'ai découvert sur un site, grâce à toi, un site formidable, que de listes, listes des scènes de danse. J'ai découvert, je ne suis pas du tout geek, donc j'ai découvert et scènes des meilleurs rires, des meilleurs éclats de rire, mais dans toute l'histoire du cinéma. Je trouvais ces listes absolument formidables, et de scènes, donc extrêmement précises. Alors, s'il y avait eu l'image, ça serait encore c'est la Madeleine absolue.
Ça existe. Et là,
ça. Mais ça, c'est formidable quand même. Ça recrée un amour du cinéma incroyable. On n'est pas dans le jugement où le truc, il est mieux, moins bien que le précédent. Jeu, effectivement, qui me paraît quand même un peu compliqué aujourd'hui. Mais dans un geste un peu où tout le monde peut s'y retrouver. Que ce soit un jeune qui commence à aimer le cinéma ou quelqu'un de plus ancien. Voilà, là, il y a des croisements possibles. C'est en sens ça que je parle de réconciliation. C'est que les discours, de nouveau, circulent un peu librement. Quoi. Pour combien de temps?
Je suis assez d'accord avec toi, mais il y a un truc qui me gêne juste dans ce que tu dis. C'est que si on était tous des trublions, ce serait assez horrible. Je pense qu'il faut... Moi, j'ai besoin de la critique, en tant qu'internaute, en tant que lecteur. J'ai besoin de savoir ce que pensent les cahiers positifs, les inroques d'un film. C'est vraiment, j'en ai besoin. Si ça n'existait plus, moi, je ne pourrais pas exister. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je pense que la critique est certes menacée, toujours à papier, évidemment, on le sait. Mais non seulement, moi je suis plus inquiet pour des revues d'information sur le cinéma. Ouais. Moi quand j'achète encore Ciné Live, j'achète encore Première, j'achète encore Studio. Je sais tout à l'avance en fait. Et je pense que ça, ce sont des canards qui sont très très menacés. J'imagine que c'est difficile pour les autres revues que j'ai citées auparavant, mais en tant que lecteur, je l'achète et j'achèterai toujours parce que je sais que je sois d'accord ou pas, il y a quelque chose en plus. Moi, je trouve intéressant que le blog dont je m'occupe, non seulement, soit chapeauté par Michel Rayac et soit chapeauté par Arte. C'est intéressant de dire je suis critique de cinéma. Dans mon top 10, quand j'avais 14 ans, il y avait Rue Barbare. Je trouve que ça dit quelque chose. C'est même plutôt ludique. Et ce serait pas Arte, ce serait moins ludique, je trouve. Il y aurait un positionnement peut-être moins intéressant. Je rebondis aussi par rapport au financement. Tout est en train de changer, en fait. La télévision, de toute façon, telle qu'on la connaît, ne va plus exister dans quelques années, c'est sûr. Parce qu'une consommation qui est dictée par les télés, alors qu'évidemment, sur Internet, on choisira son moment, le moment où on ira regarder un documentaire, un film, etc. Donc ça va tout changer. Et il se trouve que le financement est en train de changer. Le CNC a ouvert des guichets sélectifs, automatiques. Et très honnêtement, pour parler d'argent, ça change tout. C'est-à-dire que nous, les blocs qui vont être créés seront des blocs où il y aura de l'argent, un petit peu. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, il y en aura autant que pour une émission de cinéma type court-circuit. Mais c'est vraiment en train de tout changer. Si vous voulez aujourd'hui imaginer un documentaire pour ciné-cinéma sur De Palma, on me demande de penser à un contenu Internet. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et par exemple, je leur ai proposé un abécédaire sur De Palma. Une lettre, une vidéo avec tous les DVD que j'ai, je les craque, et je les mets dans la machine, et je fais un montage en fonction A comme ascenseur, G comme gare, H comme Hitchcock. Et c'est ce que je disais d'ailleurs au début. J'espère que ça produira une critique de cinéma sans voix off et que l'écriture sera par le montage. Elle a toujours été par le montage en télé, de toute façon. C'est là que tout se passe. C'est à peine la voix off. Et ça, c'est vraiment intéressant. Arte, aujourd'hui, si vous voulez vendre une thème à Arte, vous avez intérêt à mettre dans votre dossier la moitié sur un contenu Internet. Et encore une fois, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est très bien. C'est très bien et on sent bien que le financement est en train totalement de changer et que les producteurs sont même eux-mêmes en train de changer de métier. Et le contenu Internet, personne ne sait ce que c'est. Et c'est ça qui est génial pour l'instant, c'est qu'à partir du moment où personne ne sait ce que c'est, on fait ce qu'on veut.
Oui, mais c'est un problème. Si ça commence à devenir institutionnel avec des guichets CNC, tu ne pourras plus craquer des DVD pour les mettre sur ton contenu.
Je pense que encore quelques mois.
Je pars en vacances et je reviens dans quelques mois, tu m'appelles.
Non, mais c'est une question très épineuse. Moi, évidemment, je ne renie pas le droit d'auteur, certes. Mais il y a bien un moment donné où la citation, le droit de citation, va devoir être pensé. Et je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le droit de prendre 10 secondes de Shining, 10 secondes d'un Douglas Sirk pour parler de la neige. Il faut arriver... Enfin, moi, je sais que Court-Circuit, c'était 6 années de galère par rapport aux droits d'auteur. Et que s'il n'y a pas d'émission de cinéma, on est tous à regretter les fameuses émissions de cinéma mythiques. On est tous à dire que les chaînes de télé sont bien bêtes de ne pas proposer une émission de cinéma. Mais le problème n'est pas un problème de responsable. En tout cas, c'est d'abord un problème d'argent, d'abord un problème d'extrait. Donc ça, c'est absolument horrible parce qu'on empêche l'écriture audiovisuelle. Et tu parlais des bonus DVD. Là, on a une totale liberté. Là, on peut prendre 20 minutes du cuirassé Potemkin. Mais quelle pauvreté de proposer 20 minutes de voix off sur un seul film. Alors que la cinéphilie d'aujourd'hui est faite de collisions, est faite de rapports entre les plans. On a une mémoire du cinéma de plus en plus forte. Sur Internet, justement, quand on navigue, c'est des collisions d'images tout le temps. Le profil droit de Madeleine dans Vertigo, on le voit partout maintenant. Ce sont des images qui sont... Il y a des retravails là-dessus. Enfin, donc tout ça... devrait pouvoir proposer un discours adapté. Alors moi, par exemple, je fais quelque chose sur le blog que je pense malheureusement j'aurais bien du mal à faire dans les années à venir. J'appelle ça des plans rapprochés et sur une thématique qui est par exemple les mains,
les yeux, ouais,
les fait, yeux, ouais. Le feu, etc. Je passe 2 journées devant ma liste de DVD à me dire quels sont les plans de sang par exemple, d'écoulement de sang qui m'intéressent, et je fais un montage de 3 minutes. Sur des extraits très courts, hein, vraiment 3 secondes, parfois 3 secondes, parfois 10, des empiétements sonores. Enfin voilà, une écriture par le montage qui a l'effet de liste que moi j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin et qu'on retrouve beaucoup sur Internet, hein, les 5 meilleurs films d'horreur, etc., etc. Donc ça, c'est déjà intéressant en soi. Hein. Mais j'espère que ça propose aussi quelque chose de l'ordre de la critique de cinéma, encore une fois, sans en passer par la voix off. Et ce qui va être très bien par contre, et ça c'est sûr qu'on va arriver à ça, notamment dans le nouveau blog sur Arte, on va pouvoir accueillir des vidéos des internautes. C'est-à-dire que j'ai raconté récemment un souvenir d'adolescent où j'étais sorti avec une fille et j'avais choisi le film et c'était Delta Force avec Chuck Norris. Et c'est vrai que...
C'était Avelizy, c'est ça ?
Avelizy 2, au centre commercial. Et ça m'a toujours amusé. Mais en même temps, pourquoi pas ? Le fait que j'ai envie de le raconter, le fait que je recite cet exemple-là, je pense que ça dit quelque chose. Que l'on aime ce que je fais ou pas, je pense que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose peut-être pas trop sur le cinéma, mais aussi un peu par rapport à l'adolescence et à la maladresse. Mais je pense qu'on a tous des souvenirs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous, après, vous prenez une petite caméra, si vous en avez une, vous pouvez raconter quelque chose, le poster éventuellement sur le site. Et pour les plans rapprochés autour de la neige, j'ai souvent, ou autour du feu ou autour des mains, j'ai souvent eu des réactions en disant « Formidable, formidable, mais tu as oublié ce plan d'Hitchcock ou ce plan de machin. » Et ce serait formidable de faire une longue chaîne de plans mythiques pour les gens autour d'une thématique que le journaliste, pour le coup, il faut que ce soit un peu éditorialisé, propose au départ. Mais une sorte de YouTube avec un rédacteur en chef. Ça, moi, ça m'intéresserait de le voir, en tous les cas. Je ne passerai pas des heures sur Internet. Je ne dis pas que c'est le plus ultra, mais c'est aussi quand même des formes. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est qu'Internet est en train de tous nous exciter par rapport à la forme d'écriture autour du cinéma. Alors moi, venant de la télévision, en tous les cas, ayant passé quelques années dans la télévision, c'est une ouverture absolument extraordinaire. Et pourvu qu'on règle ce problème de droit de citation, ça devient infernal, ça devient... Ça nous empêche de parler de ce qu'on aime, ça nous empêche de proposer un discours critique sur quelque chose qui existe quand même, qui est le cinéma. Je comprends pas pourquoi la Warner nous demanderait 10 000 euros pour l'ouverture de Shining. C'est absolument impensable. Donc voilà, mais je sais malheureusement que la question se pose.
Bien sûr.
Moi, j'ai voulu proposer pour le Summer of 70s à Arte un abécédaire sur le cinéma américain des années 70. Eh ben, on s'est dit qu'on ne le ferait pas. Et on ne l'a pas fait parce qu'il y avait trop de risques. Mais donc, malheureusement, le problème arrive.
Bien sûr. Ouais. Voilà.
Alexandre, et puis...
Oui, alors, je vais faire vite. Alors, ou alors...
Vas-y,
sur la hiérarchie entre les spectateurs qui écrivent, les critiques de cinéma professionnels, les hiérarchies entre critiques de films, analyses de films, écrits sur le cinéma, écrits audiovisuels, etc., effectivement, il faudrait trouver une bonne méthodologie pour définir ce que c'est que la critique de film, la critique de film professionnel ou amateur, etc. Et on sait bien que la hiérarchie, aujourd'hui, la notion de hiérarchie, ou le refus de la hiérarchie, tel qu'on l'a eu depuis 68, ou en tout cas l'idée, je mettrais de la prudence par rapport à cette méthodologie, c'est-à-dire... Ça, c'est de la critique de film. Ça, c'est l'analyse de film. Ça, c'est un critique de film professionnel avec un statut particulier. Moi, je prendrai un exemple, par exemple, de Rafik Djoumi, qui est un grand critique de cinéma, qui aujourd'hui n'est pas rattaché à une revue particulière. Donc, on peut dire, il n'est pas, et il n'en vit pas, donc, il n'est pas critique de film professionnel. Pourtant, sur son blog, qui est Companion Geek, qui est probablement un des meilleurs blogs actuellement sur le cinéma, sa personnalité, son amour du cinéma, est pour moi à hauteur, sinon beaucoup plus, que la plupart des critiques de films dits professionnels, enfin, qui en vivent vraiment. Et là-dessus, les recherches qui sont faites à l'Université de Metz, notamment sur la question de l'expertise, c'est-à-dire, on va dire, finalement, tout le monde est un peu expert. C'est à la fois, évidemment, la difficulté de la chose, c'est que c'est tout l'objet du débat, effectivement, notamment à l'heure d'Internet, est un peu là. C'est, est-ce que tout le monde est expert ou pas? Pour la plupart des chercheurs qui travaillent sur la notion d'expertise, notamment du public, des spectateurs, tout le monde dit quelque chose qui est une vérité sur un film et donc qui potentiellement peut être une critique de film tout à fait pertinente. Ce qui m'a frappé avec Internet au fil de l'histoire d'Internet, c'est de voir à quel point un nombre de, pas seulement les geeks, mais disons, parce que c'est un terme un peu, les passionnés de cinéma qui tout d'un coup avaient la possibilité de parler, je ne sais pas, d'une partie du cinéma asiatique très particulier ou d'une partie des nanars des années 60 aux Philippines et de faire un site entièrement là-dessus, etc. Ça, c'est absolument fantastique parce que ça a prouvé une chose, c'est qu'effectivement, dans cette démocratisation des critiques, des analyses, etc., on a affaire aujourd'hui à une grande richesse des contenus. Et personnellement, je ne saurais pas dire qui est expert aujourd'hui de telle prudence par rapport à la notion même d'expertise de critique de films professionnels. C'est un peu difficile. D'ailleurs, quand on voit, on parlait de producteurs tout à l'heure, certains producteurs vont sur Internet, pas tous, évidemment, mais ils vont voir ce que les critiques de films écrites par les spectateurs, les spectatrices, pour voir leur expertise à eux. C'est-à-dire que, évidemment, la critique de film, c'est a priori, voilà, critique de film avec le statut, etc. Mais il y a aussi dans le contexte socio-culturel, économique actuel aussi, cette expertise-là qui est utilisée, la critique des films, des spectateurs. Alors, ce qui est formidable avec Internet, c'est effectivement, on en a parlé. La possibilité des commentaires sur les articles, etc., un peu comme les gloses tamuldiques où tout autour du texte, finalement, on a des commentaires au fil des années, même au fil des décennies, sur le texte central. Ça me paraît absolument formidable par rapport à Internet. Et ça prouve bien que dans le texte final de la critique de film, il y a le texte, le corps principal, et l'histoire de ce texte qui va être l'histoire, en fait, des réactions des publics, des spectateurs, etc. Et ça me paraît absolument passionnant par rapport à Internet.
Oui, bonjour. Alors, en fait, je pensais, en fait, oui, à ce que vous disiez sur la critique de la critique. Le fait que les lecteurs puissent réagir aux articles des revues institutionnalisées, en quelque sorte. Avant, il y avait le courrier des lecteurs, sauf qu'en fait, avec le courrier des lecteurs, on se rend compte qu'il n'y a pas de vraie critique qui est possible, et les courriers sont souvent des courriers qui ne sont pas vraiment des vraies réactions aux articles, particulièrement la Cahiers du cinéma. Et ce qui est intéressant avec Internet, c'est qu'effectivement, cette critique-là a été rendue possible, je pense, parce que c'est un site que je connais, au site des Cahiers du cinéma, avec leur forum. Et on a pu lire sur le forum des Cahiers du cinéma des critiques qui étaient très pointues, très développées, très pointilleuses parfois, très acerbes aussi. Et je trouve ça bien, je trouve ça intéressant que ça se fasse sur le forum des Cahiers du cinéma. Et on a même vu apparaître les rédacteurs Emmanuel Burdeau et Eugenio Renzi, je crois, sur le site, qui sont venus avec leur nom et qui ont commencé à réagir. C'est très embryonnaire, mais ils ont commencé à réagir à ce qui se disait sur le forum de manière générale. Et je voulais aussi ajouter, en fait, je pense qu'une des questions importantes qui traverse la séparation entre Internet et les revues soit hebdomadaires, soit la presse quotidienne, la critique professionnelle, entre guillemets, c'est le rôle de prescripteur qu'on prête à la critique professionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut que la critique de la presse dise ce qu'il faut aller voir ou ce qu'il ne faut pas aller voir, ce qui vaut la peine ou pas, étant donné qu'il y a une grosse augmentation des sorties en salle. Et ce qui est bien avec la critique de cinéma, c'est qu'on peut se détacher à la fois de ce rôle de prescripteur-là, et effectivement s'attacher à un détail, une analyse beaucoup plus fouillée, et également aussi un peu se détacher du positionnement de la marque de la presse, parce qu'effectivement, la presse a un positionnement à trouver. Les cahiers doivent-ils défendre tel film, positif défend-il tel film contre les cahiers? On a vu les Un Rock récemment sur There Will Be Blood qui a titré sur There Will Be Blood faux chef-d'œuvre. Effectivement, on sent qu'effectivement, il y a une nécessité de trouver un créneau, de trouver quelque chose pour que la marque existe, quoi, pour que la revue existe, qu'elle ait un esprit. Et effectivement, avec Internet, on a une écriture qui est beaucoup plus libre. Quoi.
Oui, c'était par rapport à des éléments qui ont été dits. Ce serait intéressant aussi de se positionner par rapport à l'autre versant. Ça veut dire que vous avez abordé la notion du lecteur et du spectateur. Ce serait intéressant de voir quel est ce parallèle et comment il s'articule par rapport à ces nouveaux médias. Deuxième élément, c'était par rapport à la critique. Est-ce que la critique est un documentaire ou le documentaire peut devenir critique? Est-ce qu'on peut faire un film critique? On fait bien un film documentaire, donc ça serait intéressant par rapport à ce type d'articulation. Est-ce que ça peut ouvrir d'autres espaces intellectuels et de réflexion par rapport à le monde que nous côtoyons, puisque nous avons plus ou moins un engagement vis-à-vis de la société? Et il y a un autre aspect aussi qui m'a intéressé, c'est la notion d'espère. Cet espère, il a l'air d'être plus ou moins un peu éclaté. Il devient un peu chercheur, quelque part, dans sa façon d'aborder, puisque les médias, surtout par Internet, lui permettent justement de se positionner en tant que chercheur, puisqu'il y a une certaine liberté de pouvoir investir. Et quel est alors là le statut, parce que vous avez parlé de professionnalisme, est-ce que le professionnalisme n'est pas en train de s'éclater et de prendre des multiformes? Voilà, c'est tout.
Juste rapidement sur le mot expert, moi je suis content que tu l'aies utilisé, parce que moi, plus ça va, plus je hais les experts. Quoi. Parce qu'on est dans un monde d'experts. Et alors, s'il y a bien une chose où on n'a pas besoin d'experts, c'est l'art, quoi, je veux dire, le cinéma. Je veux dire, ce que Luc ou Joachim font, n'a rien à voir avec l'expertise. C'est juste retrouver une liberté qui a existé dans l'histoire de la télévision, par exemple. Puisque ce qui se dit en ce moment sur Internet, enfin, en termes de création, ça existait à un moment donné. Si on reprend les choses qui se disent sur la télévision dans les années 60, par exemple, il y a énormément de propositions, de créations, où on fait de la critique du monde, des images. Enfin, c'est pas l'ORTF, c'est juste après. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné de liberté. Et là, en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a retour à ça. Ce n'est pas du tout des experts, c'est plutôt des... Alors, j'entends ce que tu dis tout à l'heure sur si on était tous des trublions, mais il y a quand même une volonté de... À la fois, juste une précision. Je ne veux pas du tout être le turiféraire d'Internet et de tout le monde qui écrit contre les revues, parce que je crois effectivement, pour reprendre ce que je dis, qu'on a besoin des petites étoiles, des grandes revues, on a besoin de ça, parce que sinon, on est dans un vide, ça n'a plus de sens. On s'appuie sur les choses qui s'écrivent, on discute à partir de ça. Moi, je suis pour la survivance de toutes les revues qui existent, papier, je suis attaché au livre aussi, à la revue. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Mais moi, je suis en haine de l'expertise, parce que effectivement, au bout d'un moment, on va avoir que les experts qui nous disent alors, ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas aller voir. Et puis, on parle beaucoup de la possibilité pour les gens de prendre de la distance par rapport à ce qui s'écrit. Moi, ce que je constate dans l'avis sur les films que j'entends, c'est qu'elles relaient souvent la vie qu'on trouve un peu partout, je veux dire. L'indépendance des jugements, elle est moins sûre que ce qu'on en dit. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on parle sur la capacité des gens de se détacher des avis qu'ils entendent, on ment un peu, quoi. On ment toujours un peu.
C'est pour ça que la notion d'expertise est importante. Enfin, c'est qu'il y a des bons experts et des mauvais experts, sans doute.
Ah oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que la question est de savoir vraiment qui va dire qui est l'expert, quoi.
Qui va expertiser les experts?
Oui, mais tu sais, on n'en finit pas, quoi. C'est un jeu de... Non, mais c'est un jeu permanent.
C'est,
de...
c'est beaucoup plus simple que ça. C'est le critique de film. Enfin, c'est pas le statut qui fait le critique de film. c'est sa personnalité, c'est ce qu'il a à dire, c'est sa passion. C'est ça, cette notion. C'est ça, cette notion. C'est ça qui me paraît absolument inévitable dans ce débat. Donc, ce n'est pas Internet ou la revue imprimée qui fait le bon critique de film. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon critique de film ? Et ce n'est pas son statut ni sa forme. C'est ce qu'il est, lui. C'est ça, la notion
c'est
de...
C'est ce qui est écrit. Enfin,
voilà. C'est ce qui est écrit ou fait. Ouais. Ou... C'est ça.
Je voudrais réagir sur les deux interventions, répondre de mon point de vue à votre question sur les différents statuts. Il me semble très clairement, comme disait Yann tout à l'heure, que la critique est un genre, donc un genre littéraire notamment, pas seulement. De plus en plus, c'est aussi un genre audiovisuel, c'est un genre d'écriture. De la même façon que la question que vous posez sur le documentaire, il me semble très clair qu'il y a des équivalents littéraires, en termes de genre littéraire, en termes de genre journalistique, au documentaire. Donc là, il me semble que ce n'est pas une problématique nouvelle, hein, que ça existe depuis longtemps, que c'est vraiment des questions de genre qui ne prennent pas forcément le même nom en fonction du support et de la forme que cela prend. Et encore, aujourd'hui, on a un peu tendance à abattre les cloisons de ce côté-là. Sur ce que vous disiez, ce qui me fait réagir, c'est sur les questions de prescription. Je parle pour moi. Moi, je n'ai jamais aspiré à pratiquer la critique de cinéma pour être prescripteur. Il me semble que, pour ma part, dans mon itinéraire personnel, la question de prescription, de passation, elle est passée par une activité de programmation, de choix de film. La critique m'intéresse plus et il me semble que beaucoup de gens en sont là. Dans les publications dans lesquelles j'écris et que je fréquente, il me semble qu'elle intéresse plus dans l'idée d'une production de discours, de produire un discours sur des objets qui sont la plupart du temps des films.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oh, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais il me semble que, pour moi, vraiment, la notion de prescription passe vraiment au second plan. Ce que vous disiez sur There Will Be Blood aux Unrock, par exemple, ce n'est pas forcément un choix de positionnement très politique. Il se trouve que on s'est retrouvés les seuls à dire du mal du film. Donc finalement, on pourrait considérer que c'est un beau coup. puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas le film, donc leur seule bannière aujourd'hui, c'est les Unrock, peut-être. Il se trouve que c'est un film qui a été rejeté par 5 personnes sur 6 dans la rédaction, donc ça n'a pas été beaucoup plus calculé que ça. Mais il me semble, de toute façon, aujourd'hui, alors là, aujourd'hui, c'est moi qui endosse ce rôle qui a été longtemps celui d'Yann, du plus jeune autour de cette table, et pourra me répondre sur des choses plus anciennes. Il me semble, en tout cas, dans mon vécu et mon expérience à moi, que... cette fonction de prescriptrice, aujourd'hui, elle n'existe plus. Alors, la question que je te pose, c'est a-t-elle jamais existé ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, et qui est très facile à diagnostiquer avec les revues de presse dont on bénéficie sur des sites commerciaux qui recensent sur absolument presque toutes les publications qui produisent de la critique ou des chroniques de cinéma, les avis qui sont clivés par un système d'étoiles très schématique et pas toujours d'ailleurs bien attribué, on voit qu'il y a des films qui sont intégralement portés par la presse et que personne ne va voir le premier jour, que personne ne va voir le deuxième jour, que personne ne va voir le week-end. Et comme l'exploitation des films étant ce qu'elle est aujourd'hui, que ces films, personne ne va les voir. Donc je ne sais pas du tout si cette prescription, ce pouvoir de prescription qu'on prête, en tout cas que vous prêtiez à la presse, a jamais existé. Aujourd'hui, il me semble qu'il a jamais, il est quasi inexistant.
Si je peux juste réagir sur la prescription, moi je pense pas que le pouvoir soit très grand, mais même s'il est petit, je pense qu'il existe et que c'est bien qu'il existe. Maintenant, à chaque fois on prend des métaphores. Prescription, c'est un terme médical pour dire c'est un truc qu'il faut que vous preniez tout de suite et combien de fois par jour et vous serez guéri après. Là, évidemment, alors là il faut faire une distinction entre les critiques de quotidien par exemple et les critiques de revue. C'est deux activités totalement différentes. Même si la même personne peut écrire dans les deux, c'est même l'état d'esprit quand on se met pour écrire le papier va être différent. Ce qui peut être prescripteur à la limite dans Positif, c'est la lecture du sommaire de Positif, mais que a priori la lecture des articles dans Positif les articles sont plutôt écrits pour des gens qui ont déjà vu les films. Donc voilà, il y a ça nous mène à ce dont on a parlé, enfin on a souvent effleuré, c'est le mode d'emploi. C'est ce qu'il y a à dire. Quand on compare la critique écrite à papier à la critique Internet, l'énorme différence, c'est comme avec le documentaire, par exemple, c'est le mode d'emploi de la critique. Alors, c'est évident que l'article sur les ch'tis, la personne qui a positif, elle ne l'a pas forcément lu là, mais elle sait qu'elle peut le sortir de sa bibliothèque, même 10 ans après, si elle veut avoir une idée de ce qu'on a pensé sur les ch'tis à cette époque-là. Alors que si on va la chercher sur Internet, ce sera uniquement cet article-là qu'on vient de venir chercher parce qu'on s'intéresse à, justement, c'est presque de la prescription, là, en l'occurrence, à cet article donné. Ce qui nous mène aussi au débat qu'on avait eu sur comment garder, comment préserver ces œuvres qui devraient être protégées et devraient être consultables dans 10, 20, 30 ans pour savoir. Puis alors, autre chose qui a été effleurée aussi, c'est la démocratisation. Alors moi, je me souviens d'une table ronde sur la critique, c'était du temps du Salon du Livre de Cinéma, où on parlait de positif, et puis il y avait un journaliste ou un critique dans la salle qui dit « Oui, mais le problème à positif, c'est que vous êtes des censeurs ». Alors j'ai dit « Ah bon, alors on réagit, mais comment ?» Mais bah oui, je vous ai envoyé des tas d'articles et vous n'en avez publié aucun. Alors c'était ça la censure. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si Positif était un site internet, on pourrait publier les 9 dixièmes de ce qu'on reçoit dans une sorte de forum ou lettre de lecteur ou courrier reçu, des choses comme ça. Mais bon, il se trouve que c'est justement sélectionner les lettres qu'on reçoit qui nous sert de recrutement à Positif. C'est comme ça que j'ai été recruté à Positif. J'ai envoyé par la poste un article et puis bon, il a été lu tout haut le dimanche, et puis on a décidé qu'il serait publié. Donc c'est aujourd'hui, si ça arrivait aujourd'hui et que Positif était une revue en ligne, ça se passerait de façon totalement différente.
Il ne faut pas passer l'idée que sur les sites internet tout passe non plus. Hein. Les sites dont on a parlé sont des sites quand même où il y a des
comités de réaction. Oui, tu as dit toi-même que quand c'était insultant, tu
non, c'est vrai, sur Mediapart, tout ça. Parce que justement, il y a une éthique de ça en disant que les réactions ne sont pas bonnes à prendre. Je veux dire, bon, sur Chronicard, pas du tout. Bon, tu peux te faire insulter. Bon, le truc, c'est pas ça. C'est que, juste je voulais dire, c'est que sur un comité de réaction de site, on choisit ou pas ton texte quand même. Il y a des gens qui regardent comment tu écris.
J'espère.
C'est pas non, parce qu'il y a 10 ans, enfin il y a 5 ans, on pouvait dire ça. Maintenant, il y a quand même un contrôle sur l'écriture. Moi, ce qui a marqué dans le site de Joachim, c'est la qualité de l'écriture. Parce que justement, j'avais cette idée reçue de sur Internet, il y a un peu tout, c'est des fois mal écrit. Non, sur les sites dont on parle, là que tu as cité, c'est plus le cas quand même.
C'est ce qui donne une identité, finalement. On parlait tout à l'heure de la signature, c'est ce qui donne la signature d'une revue, d'un site, de quel que soit. D'ailleurs, c'est d'arriver à avoir une ligne éditoriale, finalement. Donc on en revient encore à la notion d'œuvre et de genre.
Alors, une réaction, monsieur.
Oui, moi, sur ce point, sur la prescription, je voudrais témoigner de mon rapport à la critique. J'ai découvert un certain type de musique dans un internat. Et lorsque j'ai perdu l'ami qui m'avait conseillé tout ça, j'ai trouvé un autre ami qui était les Inrock. Dans les Inrock, il me donnait énormément de conseils. Et sur 10 conseils, il y en avait 8 qui étaient excellents. Et 2 où je me disais, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Je suis resté abonné pendant 10 ans aux Inrock, jusqu'au passage à Debdo. Positif, ça a été un peu plus tard, pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les 3 films du mois. Il y a les 5 films du mois aussi, mais un peu moins détaillés. Et la première atteinte que j'ai par rapport à la critique, c'est qu'effectivement, elle me donne des conseils, parce que moi, je ne peux pas savoir ce qui est vraiment bien ou pas. Et puis, je trouve des amis qui me disent, voilà, nous, on aime ça. Et moi aussi, j'aime ça, finalement. Et je vais lire, après, je prolonge le plaisir de la vision par le plaisir de la lecture. Mais je ne suis pas rentré par le genre littéraire. Le genre littéraire, moi, je ne suis pas littéraire au départ. Et donc, je m'en foutais complètement. C'était plus de trouver des amis, parce qu'autour de moi, on ne me donnait pas ces conseils-là. Et donc, j'ai trouvé ça chez Positif, chez les Inrock, pendant quelques années. Voilà.
Madame Bouvier. D'accord.
Alors, je ne voulais pas être restrictif quand j'ai parlé de genre littéraire. C'est-à-dire que vous avez aussi des amis romanciers qui ont écrit des romans et qui vous accompagnent. Hein, c'est la même...
Bonjour. J'aimerais avoir votre sentiment sur la chronologie des médias. On en parle beaucoup dans la diffusion, et un peu moins sur l'exercice critique. Donc il y a deux relations qui peuvent se faire, à la fois quand le site internet est celui d'un magazine, votre sentiment sur le fait, par exemple, d'être réactif, de poster une critique sur le web, alors que le magazine va émettre peut-être un autre avis plus tard sur le papier. Également le fait de poster toutes les critiques du magazine sur le web et avoir le risque de déshabiller le magazine. Et l'autre relation est celle avec les attachés presse. Par exemple, Dark Knight, Batman. Il y a les projections presse qui vont commencer la semaine prochaine. Et les attachés presse vont faire signer un papier aux journalistes pour leur dire Êtes-vous d'accord pour poster la critique à partir de telle date? Que pensez-vous de ça?
Alors, pour ce qui est... Ça, c'est un problème, les projections de presse. Bon, ça a été longuement débattu au sein de nos comités de rédaction. Il a été décidé, il y a quelques années, que ne paraîtrait en principe jamais, dans positif, un article défavorable sur un film avant sa sortie, c'est-à-dire le mois d'avant sa sortie. Et donc, alors, ça pose un problème pour les films qui apparaissent au milieu du mois ou tard dans le mois. Mais c'est vrai qu'on a réfléchi, on a débattu, on s'est dit que finalement, chacun faisait son métier, que ce n'est pas obligatoire de faire des projections de presse, que les attachés de presse organisent des projections de presse pour faciliter le travail des journalistes et des critiques. Et donc, la moindre des choses, c'est de ne pas tricher sur cette règle du jeu. Alors maintenant, le problème, c'est quand on se met à... Ça, c'est une éthique qu'on peut avoir personnellement et entre nous. Le problème, c'est de réglementer et de légiférer à une grande échelle et de faire des, et de ne pas compter que sur l'éthique personnelle de chacun, parce qu'il y a des abus, parce que ça, c'est un problème autre. Mais je vous donne juste la position qu'on a eue, suite à quelques incidents, d'ailleurs. L'attaché de presse qui nous avait dit, mais attendez, un mois avant, vous ne donnez même pas la chance aux gens de voir le film en le descendant comme ça.
Et les incidents, d'ailleurs, dans le cinéma nous arrivent. Ils existent déjà dans le cas de la musique. Il y a un cas récent qui a eu lieu en Belgique, où c'était un album de Deus, je crois, oui, qui sortait. Et la maison de disques a fait envoyer des exemplaires de presse en faisant signer aux journalistes un papier comme quoi, s'il publiait quelque chose avant la sortie du film, il devait 20 000 euros à la maison de disques. Donc on ne sait pas exactement de quel droit, en fait, la maison de disques inflige des amendes et fait sa loi, etc. Mais on peut très bien imaginé, vu ce qui se passe à l'entrée de certaines projections de presse de films, notamment distribués par des majors, en termes de confiscation de portables, de signatures de documents, etc., que ces choses-là vont arriver dans le cas du cinéma. Et sachant que, évidemment, un quotidien qui est Le Soir, je crois, a transgressé l'accord passé avec la maison de disques, aujourd'hui, on ne sait pas... du tout, qui va condamner Le Soir à payer 20 000 euros et qui va faire que enfin qui va régler ce contentieux-là. On peut imaginer que ça se produise dans le cinéma, a fortiori sur Internet, où il y a une espèce de course de certains sites. Je pense notamment à des sites comme DVDrama, comme Écran Large, qui sont vraiment là à la première projection de presse pour publier la première critique sur un film, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'attente que suscite.
Ça existait déjà dans la presse écrite. Hein.
Oui.
Ça existe encore pour les
mais côté là, people. Là, on est quand même dans une espèce de délai.
Enfin, c'est encore plus...
On est dans une... comme le disait très bien Joachim, ce Internet, c'est ce média où tout est archivé, alors de manière un peu illusoire, pour a priori toujours, même si des sites disparaissent, des serveurs explosent, etc. Mais où on est dans l'instantanéité de la publication. Voilà, où on peut toujours tout corriger, la moindre coquille... on est dans ce rapport vraiment très ambivalent au temps, et donc il y a cette instantanéité-là qui est Batman, là, qui est projeté mercredi pour la presse. Je pense que la projection a lieu à 10h du matin. Je pense qu'à 15h, vous allez sur l'un des sites que j'ai cités, vous pourrez lire un avis sur le film. Voilà. Probablement écrit un petit peu vite, probablement pensé un petit peu vite aussi, mais vous pourrez lire ça dès 15h, je pense.
Mais ça, c'est le problème qui existait pour les critiques de quotidien. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les attachés de presse font un mois avant des projections de presse pour les mensuels, en principe, à cause des délais de bouclage et tout. Mais s'il y avait une vraie course comme ça, et parfois, il y en a, et moi, je trouve que c'est un peu de l'abus de position, de l'abus de pouvoir pour un quotidien, de sortir un mois et demi avant pour être avant les autres, etc. Une critique d'un film qui sortira pour une question de scoop, c'est un peu gênant. C'est comme, par exemple, quand on reçoit des mails à la fin de festival en disant le grand prix a été attribué à, et puis on nous met information sous embargo jusqu'à 19h30 où le prix sera annoncé de façon officielle. Ça, je comprends ça. Cette volonté-là. Et c'est vrai que quand il y a des abus, il y a forcément une répression après qui est juste ou pas juste. 20 000 dollars, c'est bon. Mais voilà, c'est dissuasif. Quoi, disons. Bah, c'est... Oui. Bah, ils peuvent, ouais, mais disons qu'ils ont au moins la chance de le voir, étant donné que surtout dans les, le cadre de l'exploitation actuelle, c'est à 14h quasiment le premier mercredi que se décide si la salle va garder le film une deuxième semaine. Garder au moins une chance pour le spectateur d'avoir vu ce film et de ne pas le décourager avant. Que le film sorte. Voilà,
moi, je suis un peu embêté qu'on termine sur cette thématique-là, parce que là, pour le coup...
Ça fait très boutique.
Quoi. Non, mais là, non, et puis surtout, ça fait... on parlait prescription, parce que, bon, il y a deux usages d'Internet. On a commencé en disant qu'il y avait un usage extrêmement... enfin, qui donnait du temps aux gens, qui développait une autre relation au cinéma. Bon, on parlait des blogs de Luc et de Joachim. Il y a un autre usage d'Internet, qui est un usage sauvage, qui fait que les gens veulent savoir très vite ce qu'on en pense. Et c'est pas forcément grave. Je veux dire, tu dis que ça poursuit des choses de la presse écrite. La critique du journaliste, moi, ça me paraît complètement aberrant le truc des chèques ou des machins. Nous, à Chronique Art, on sort la critique du film le lundi pour la sortie du mercredi. Et par exemple, sur le film de Desplechin, qui a été absolument détesté par la personne qui a écrit le très beau texte sur le film, mais très dur sur le film. Donc moi, je partageais pas du tout la gamme. Donc j'ai écrit ton courrier des lecteurs pour dire que je me plaignais. Moi, j'ai sorti le lundi. Et là, franchement, on retombe sur les vieux débats. On l'a dit tout à l'heure. La prescription et l'idée que les gens vont voir un film ou pas par rapport à la critique, c'est quasiment mort. C'est une idée un peu morte. Mais par contre, je suis d'accord, on aime qu'il y ait le choix des grandes revues, mais on se situe par rapport à ça. Moi, j'ai des notules dans les cahiers récentes qui étaient aberrantes, qu'elles sortent un mois après. Je peste contre la notule, même si c'est sorti un mois après. Mais que ce soit trois jours avant, un mois après, la question, c'est de dire ce qu'on pense du film.
Et il me semble que la preuve de cela, qui est tangible, c'est de voir que dans les revues dont nous parlons, dans des revues qui nous sont pour la plupart proches, les textes accordés, la taille des textes accordés au film n'est pas fonction du jugement qui est porté sur l'objet, enfin principalement sur le film. C'est en général plutôt fonction d'enjeux critiques que présente la plupart du temps, parfois d'enjeux sociologique dans le cas des ch'tis, voilà, mais d'enjeux critiques qui font faire que tel film détesté va bénéficier de l'ouverture des pages cinéma dans les Arocs, que tel film plutôt aimé par la rédaction des cahiers va bénéficier d'une notule, alors qu'un film à fort enjeu qui leur semble dire beaucoup, qui leur semble appeler un discours important, va bénéficier d'une critique longue, etc. Donc voilà, l'enjeu n'est pas là sur le aimer, pas aimer, très clairement. Il me semble, en tout cas, dans ces revues dont on parle, qu'ils sont plus attachés au discours.
C'est-à-dire que, pour terminer sur l'histoire de la prescription, il faut savoir qu'effectivement, la critique de cinéma, de manière générale, a très peu de pouvoir prescripteur. Mais par contre, elle a un pouvoir parfois dissuasif. C'est-à-dire que si l'ensemble de la critique descend un film d'art essai ou dit auteur, on peut être sûr que ça va être mauvais pour le film qui en général a une petite sortie déjà. Donc voilà, c'est là qu'il y a une responsabilité, je trouve.
Et sur l'anecdote, puisqu'on a parlé récemment de Jean-Patrick Manchette qui a sorti son journal et tout, qui disait toujours qu'il regardait les étoiles de Télérama pour savoir les films qu'il n'allait pas voir. Plus il y avait d'étoiles, moins il y allait. Mais qui se trompait jamais. Il remerciait beaucoup Télérama. Donc, voilà, ça, c'est une anecdote sur le côté un peu, je veux dire, on suit ou on ne suit pas, justement. Donc, la presse, on s'appuie sur les critiques pour faire l'inverse.
Mais je vais vous donner la parole. Ce qui est passionnant aussi, pour sortir justement de la chronologie des médias, Internet est le seul endroit où on sort justement de l'actualité. Il y a beaucoup de magazines papier et pas seulement papier, tu l'as rappelé avec DVD-rama, qui a collé à l'actualité. Mais ce qui se passe avec certaines revues ou la plupart des blogs, c'est de sortir de ça et de revenir finalement à un fondamental qui est de partager une émotion sur un film avec un lecteur. Je ne sais pas si Joachim peut rebondir par rapport à ça. Mais...
Oui, enfin, c'est... Bah.
Mais on peut dire une chose peut-être, oui. Juste simplement, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on parle de blog comme si c'était une unité face à l'unité que serait la critique. Voilà, déjà, on a évoqué tous les partages qu'on pourrait faire et finalement les rapprochements qu'on pourrait faire entre des gens qui sont sur un socle de critique de cinéma professionnalisé et des blogueurs, des enseignants, des spectateurs. Voilà, il y a beaucoup de catégories finalement qu'on pourrait fondre entre elles en fonction de ce qui est écrit, de ce qui est formulé. Il me semble que voilà, à l'intérieur des blogueurs, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent qui sont très différentes. Tu évoquais le cas de Rafik Djoumi. On peut quand même dire que Rafik Djoumi, qui n'est donc pas, comme tu le désignais, un critique professionnel, l'a été. Enfin, il a bénéficié d'une exposition presse dans un journal plutôt lu et acheté par des gens. Il y a d'autres cas, il y a des gens comme Sébastien Bénédicte qui a écrit au Cahier pendant quelques années, qui a aujourd'hui un très, très beau blog, je trouve. Voilà, mais donc le blog peut servir à prolonger des parcours critiques qui ne passent plus par la revue traditionnelle, par le papier. Le blog peut servir à inventer de nouvelles formes. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Joachim, notamment sur des montages d'images, sur des images retouchées, sur des choses comme ça, qui me semblent proposer de nouvelles formes critiques. Il y a aussi beaucoup de blogs qui, bons ou pas, enfin, et puis il faudrait définir les critères là-dessus, sont dans une espèce de mimétisme de ce qui se passe dans la revue papier aujourd'hui, et il me semble d'ailleurs que c'est une majorité de gens qui font des textes qu'ils veulent des critiques de films au sens le plus archaïque du terme, et que ça témoigne malgré tout, finalement, même si cette explosion, cette démocratisation de ce genre-là et de sa publication est permise par Internet, ça témoigne néanmoins du poids, en tout cas, ou de l'aura dont continue en fait de bénéficier les anciens finalement, les anciennes publications, les anciens cadres, les anciens supports.
Monsieur.
Ok, merci. Le débat d'aujourd'hui, ça tourne autour d'un seul mot, liberté. Liberté d'écrire, liberté de partager ce qu'on veut, liberté de critiquer. Alors, moi je suis un Africain, et peut-être je vois la liberté autrement que les Européens. Alors, moi je dis, tout ce que nous faisons dans cette vie, il faut qu'on ait un objectif. Et l'objectif premier pour moi, c'est la responsabilité. Alors, je réponds à celui qui dit pourquoi on l'empêche de critiquer un film avant qu'il doit sortir avant un mois. Alors, le monsieur qui a le réalisateur ou bien le producteur qui a produit son film, il veut de l'argent. Et peut-être qu'il n'a pas réussi son film. Et toi, en tant que journaliste qui critique d'une façon négative, quel est ton objectif en critiquant un mois d'avance avant la sortie? Qu'est-ce que tu poursuis? C'est des questions qu'on doit se poser. Et je continue de dire, cette liberté, et ce que, Alexandre, je ne sais pas, vous avez dit quelque chose, vous avez parlé de responsabilité. Qu'est-ce que cette liberté, est-ce que nous pensons d'ici 5 ans, 10 ans, cette liberté que la révolution numérique nous a offert d'ici 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Et quels sont les publics, le public que nous poursuivons en faisant ces choses-là? C'est des questions qu'il faut... Dieu nous a donné cette liberté de faire ce que nous voulons. Mais en agissant, moi, je pense qu'on doit premièrement réfléchir à la responsabilité. Je vais vous donner un exemple très simple. À Hong Kong, il y a un monsieur, un acteur, et il trouve le luxe d'avoir des relations intimes avec les stars. Alors, et il met tout ça, il photographie, quand il fait ses relations, il filme tout ça. Et il a mis ça dans son ordinateur. Un jour, son ordinateur est gâté, il est parti réparer. Et le maintenancier a pris toutes ses photos et il a fait un blog avec ça. Vous voyez ce que ça dit. Et c'est vrai de partager des choses, mais c'est pourquoi moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut signer, il faut une signature. Et moi je pense que si ce soir, aujourd'hui, on ne voit pas un peu, c'est vrai, on ne va pas trouver une solution, mais moi je souhaite que le débat. On a déjà cette liberté de créer, on a cette liberté de partager ce que nous voulons, mais est-ce qu'on ne va pas un peu voir. Dans cette liberté-là, notre responsabilité, comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de débats? On ne va pas trouver une solution, on discute. Voilà ce que moi je voudrais qu'on partager avec vous. Merci.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, notamment sur les perspectives d'avenir, ce serait une bonne manière d'ailleurs de conclure enfin, sur ce que peut nous apporter.
En tout cas, effectivement, la signature, ça paraît très intéressant, le rapport entre liberté et responsabilité, en particulier aujourd'hui. Si je devais vraiment conclure, ce serait vraiment en accent sur l'aspect pédagogique, potentiellement pédagogique d'Internet. Parce que j'ai cité au début des propositions Internet qui sont très axées sur la pédagogie pour différents sous différentes formules. Et ça, j'avoue que si on pouvait continuer aussi dans cette voie, au-delà de c'est-à-dire une approche, une analyse de film ou une critique de film, où il y ait ce partage aussi pour ceux qui arrivent, pour les plus jeunes, même en fait pour tous les âges. Cet aspect-là d'Internet, c'est vraiment, me semble-t-il, parce qu'il est vraiment multiplié, qu'il devient de plus en plus cultivé en ce moment sur Internet depuis quelques années, me semble vraiment plutôt pas mal pour l'avenir d'Internet, justement. En tout cas pour l'écrit sur le film, on va dire.
Bon, c'est... Un mot peut-être sur la responsabilité. C'est vrai que j'ai appris ce que c'était depuis que j'écris, que d'être responsable de ce qu'on écrit. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien d'une époque quand je démarrais à Positif, où je m'éclatais, comme on dit. Je passais une semaine parfois à écrire 15 lignes pour descendre un film. J'étais très fier de moi. Et je le faisais inconsciemment, mais c'était évident maintenant, quand je prends de la distance, pour briller moi-même aux dépens de l'œuvre. Et c'est vrai que peut-être d'avoir aussi rencontré soit des réalisateurs, soit des lecteurs qui me demandaient des comptes, m'a conduit à responsabiliser mon activité critique, c'est-à-dire à justifier à chaque fois mes positions dans des termes qui étaient, je dirais, recevables par ceux qui avaient fait le film et par ceux qui allaient le voir. C'est-à-dire que pour moi, écrire une critique de film, le film m'a parlé et puis moi, je lui réponds. Le film m'a parlé et comme il sort, il parle aussi à plein de gens. Puis moi, je lui réponds et puis ma réponse, elle va aussi être accessible à certaines personnes. Donc, je m'expose aussi à être critiqué moi-même par ce que je dis. Donc, je prends la responsabilité de ce que j'écris. Voilà. Moi, et c'est vrai que j'entends aussi, mais il ne faut pas se laisser piéger. Hein, j'entends aussi le réalisateur ou le producteur qui me dit, mais vous vous rendez compte, moi, pendant 5 ans, moi, pendant 10 ans ou pendant 3 mois, j'ai travaillé sur ce film, La sueur de mon front, j'ai mis toutes mes économies, j'ai vendu ma maison, etc. Et puis vous, en 10 lignes, vous vous permettez... Mais ça, c'est vieux comme le monde, ce débat-là. Ça existait déjà au temps des critiques, à mon avis, dans l'Antiquité. Ça existait déjà, c'est-à-dire l'esprit critique justement, et ça nous mène à cette position, cette question de l'expertise. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis expert pour? En moins, très souvent, quand je suis, par exemple, dans des dîners, les dîners, c'est génial, les dîners où il y a plein de cinéastes et tout le monde est très aimable et qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et quand on apprend que je suis critique, alors là, on se fonce sur moi, le critique, le méchant de la table, etc. Mais bon, c'est normal en même temps. Puisque on écrit aussi pour se faire critiquer. Tant mieux. Alors moi, ce que je cite souvent, alors là, pour les jeunes critiques, je vous conseille de vous souvenir, c'était du temps où Oscar Wilde, ben je cite souvent ça, je l'ai même cité souvent dans Positif, du temps où il était critique dramatique pour un quotidien. Un jour, il reçoit, justement après une critique défavorable, une lettre de lecteur qui est publiée dans le journal. Genre, mais j'ai passé 3 ans à écrire cette pièce, comment monsieur Oscar Wilde, qui à l'époque n'était pas encore auteur dramatique, comment est-ce qu'il peut se permettre en quelques lignes de détruire le travail de plusieurs années, etc. Et puis Oscar Wilde lui a répondu en 3 lignes, je n'ai pas besoin d'être une poule pour reconnaître un œuf pourri. Donc ça, c'est juste, c'est la question de l'expertise justement qu'il définissait ici, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut avoir une responsabilité sur ce qu'on écrit, en effet.
Pour prolonger ça sur la question de signer, il me semble que la problématique n'est pas du tout neuve. Il y a depuis toujours des gens qui signent sous pseudonyme dans la presse, des gens qui publient des textes anonymement depuis toujours dans la presse papier. Il y a des publications très influentes, je pense notamment dans la presse anglo-saxonne, notamment dans le champ de l'économie, où l'engagement est pris par l'ensemble de la rédaction de signer l'intégralité du numéro. Donc les textes ne sont pas signés individuellement, mais collectivement par la rédaction. Je ne crois pas vraiment que le problème se situe là. Les questions de responsabilité, en fait, moi, la question de responsabilité du critique dans la presse, je me la pose essentiellement dans des cas de responsabilité par rapport au titre pour lequel on écrit. Il me semble qu'Internet pose aussi cette question-là. Et en cela, Internet peut nous déstabiliser, nous autres venant du monde du papier. Lorsqu'on écrit dans le cahier critique d'un journal ou d'une revue de cinéma, on écrit pour la revue. Les gens vont dire, les Inrocks ont pensé. Évidemment, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on a cette responsabilité-là. Ça pose aussi cette question-là sur ce que tu disais, sur le fait de descendre un film intelligemment, bêtement ou sèchement. Voilà. On engage pas seulement ça, on engage sa parole, mais on engage l'image du titre pour lequel on écrit. Là où on peut être déstabilisé aujourd'hui par Internet, c'est que les journaux de plus en plus ont des blogs. C'est votre cas depuis un certain nombre d'années à Chronic Arts, pendant le Festival de Cannes notamment. C'est notre cas depuis cette année pendant le Festival de Cannes. Et ça nous pose cette question-là. Ces blogs sont polyphoniques. J'écris sur le blog de Cannes des Inrocks avec Serge Kaganski. Nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes films. Comment est-ce qu'on pose cette question-là ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une coprésence de nos avis donc contradictoires sur tel film ? Est-ce qu'il faut que nous parlions pour les Inrocks ? Est-ce qu'il faut que nous passions certaines choses sous silence parce que nous savons que le film ne sera pas traité de cette manière-là dans le papier ? Quelle voix, quel jeu en fait utiliser ? Il me semble que cette Internet pose cette question de responsabilité-là dès lors qu'elle elle ouvre de nouveaux espaces aux rédactions, qu'elle crée de la polyphonie, alors qu'on a plutôt tendance à considérer que les titres, les publications ne doivent pas être des cafés de commerce, que voilà, on attend une ligne éditoriale, enfin vous parliez notamment de ça, qui est fixée par une rédaction, par un rédacteur en chef, et qui va être la ligne d'une revue qui va s'exprimer à travers plusieurs voix, mais qui vont être la voix unique au final, qui vont former au final la voix unique de la revue. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Nous, on a tâté le terrain cette année. Il me semble que c'est une question assez intéressante que ça pose, à la fois du point de vue de l'attente du lecteur et de ce que ça a produit sur l'image du titre, sur le discours critique en lui-même.
Moi, je voulais juste rajouter deux choses, de conclusion un petit peu aussi. Moi, je crois que la responsabilité, déjà, c'est d'aller sur Internet, puisque tout le monde y va, tout le monde y est, tout le monde passe des heures, paraît-il, de la jeune génération. Moi, je suis une génération certainement intermédiaire. Je passe 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc, c'est une réalité, donc il faut foncer. On n'a pas le droit de déserter, bon, ça, on est tous d'accord. Donc, on y va, d'ailleurs, on y est. Mais ça va être de plus en plus vrai. Et puis, moi, quand même, on a peu parlé de forme, finalement. Enfin, c'est un peu mon obsession, c'est-à-dire que le média n'est pas le même, quand même. C'est pas le même média que la presse papier, c'est pas pareil que la télé. Et donc, ça qui est passionnant, je trouve, c'est quand le média nous questionne, ça permet quand même de faire des critiques. La critique dont vous rêvez, mais elle est déjà faite d'ailleurs, une critique papier, oui. Enfin pas papier, pardon, écrite, oui. Et puis un extrait qui est juste en dessous, etc. Mais ça, c'est effectivement génial. Donc, il faut foncer là-dedans, parce que ça aussi, ça nous questionne, nous. Moi, je ne vois pas trop les défauts, d'ailleurs, de cette consommation d'Internet, entre guillemets. Parce qu'on dit que les gens zappent plus en regardant un petit sujet sur une petite fenêtre sur YouTube. Je suis à peine sûr. Hein. C'est vrai que ça nous impose des durées de sujets peut-être un peu plus courtes. Je ne pense pas qu'on peut aller au-delà d'un quart d'heure, etc. Mais n'empêche que le zapping, il existe aussi à la lecture. Les cahiers, je le lis d'abord. Tous les journaux, bien sûr. Et pareil pour la télévision, etc. Donc, il n'y a pas ce défaut-là. Et encore une fois, moi, ma cinéphilie est de plus en plus liée à des connexions, parfois très flash, très collision, très lien. Et c'est très Internet, décidément, ça. Et aujourd'hui, effectivement, quand je fais une critique et lier 2 images, il est faux. Il faut qu'elles soient là. Alors qu'on a souvent publié des textes où il n'y avait pas la preuve par l'image. Moi, depuis que je travaille à court-circuit, je suis obsédé par la preuve par l'image. C'est ça qu'il faut faire. Ça marche. Et quand vous faites des conférences sur je ne sais quoi, etc., si vous avez l'image à l'appui, ça, c'est génial. La presse papier n'a pas toujours eu cette possibilité-là. La télévision, n'en parlons pas, puisque aucun moyen pour avoir des extraits. Et Internet, pour l'instant, voilà, on peut avoir la preuve par l'image, on peut faire des liens. Donc j'ai beaucoup insisté sur l'intimité, mais j'insisterai plus en conclusion sur vraiment cet effet de collision que permet Internet, que je trouve très beau, très juste, par rapport à des gens qui ont vu des milliers de films. Moi, ça me parle, ça me fait penser à René dans On connaît la chanson, c'est exactement ça. Moi, ma vie est faite de collision, et j'essaie de trouver une forme par rapport à Internet, et je crois que c'est la forme pour l'instant idéale, pour montrer cette façon de vivre une vie, et cette façon de vivre sa cinéphilie. C'est-à-dire que tout se mélange, ou plutôt, on fait un peu exprès d'y croire.
Très bien. Personne ne veut rajouter. Alors, merci à tous, et écoutez, bon après-midi, et à très bientôt.